Vous écoutez
RMC.
Elle est pour nous, celle-là, comme d'hab. Vous pouvez ramener qui vous voulez, les Argentins, les Brésiliens, les Espagnols. Ramenez-les nous.
Bah on envoie un message, on est les Bleus. Allez les Bleus.
Les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Allez les Bleus, évidemment. Bonjour à tous, les grandes gueules du sport. Votre émission en direct tous les samedis et dimanches, exceptionnellement ce week-end de 9h à 11h. Car à 11h, vous retrouverez l'intégrale Coupe du Monde avec cette rencontre Japon-Costa Rica. Journée de feu, une nouvelle fois sur RMC avec à 20h le choc de ce groupe d'ailleurs de Japon-Costa Rica. Espagne, Allemagne, les GG, l'émission de sport que tu peux écouter en voiture, en pyjama, en podcast ou les trois en même temps. Au sommaire des grandes gueules du sport, nous allons largement revenir sur la victoire des Bleus hier face au Danemark. Dans quelques instants, la une des GG, l'équipe de France est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde après deux journées. Est-ce un événement? À 9h30, la punchline des GG signée Aurélien Tchouaméni qui a tenu à rétablir la vérité sur l'histoire Karim Benzema. Et puis 11h, nous allons passer la seconde autour des deux leaders de cette équipe de France. Le sauveur, celui qui marque, Kylian Mbappé. Le régulateur, celui qui se sacrifie pour le collectif, Antoine Griezmann. Qui vous impressionne le plus depuis le début de la Coupe du Monde? Et vous n'êtes pas d'accord? Les grandes gueules du sport ce matin, une grande gueule qui, comme Lionel Messi, vit sa dernière Coupe du Monde. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Ça, c'est ce que tu espères. Mais non, tu m'as encore dans les pattes dans 4 ans, mon pauvre ami.
Encore?
C'est toi qui ne seras peut-être plus d'ailleurs.
Dans 4 ans. Toi. Attends, ouais. Bah, à 90 ans, il y a un moment, il y a la retraite, non? Il y a quelque chose?
Non, il n'y a pas de retraite, c'est jusqu'au bout.
D'accord.
Okay. Mourrez en scène, mon cher.
Le
ami.
Calice jusqu'à la ligne. Je vais peut-être partir, moi, d'ici là, quand même. Une ouais, grande gueule.
Tu seras plus.
D'accord, ok.
Tu seras plus étanche.
Ok, ouais, ça m'étonne pas. Une grande gueule qui, comme Lionel Messi, ne parle pas encore très bien français. Denis Charvet, salut, ouais. Denis. Ouais.
Tu veux faire une dictée? Tu veux faire un devoir de philo?
Pourquoi?
Eh ben, on verra. C'est qui parle mieux de toi ou de moi?
Ok, j'ai ma petite idée sur la question.
Ouais.
Ah, je t'adore, mon Denis. Une grande gueule qui, comme Lionel Messi, a aussi fait pleurer les Mexicaines. Stéphane Brun, salut Stéphane.
Salut, c'est salut tout le monde.
Pourquoi les Mexicaines?
Salut.
Parce qu'il y avait Argentine-Mexique.
Oui, alors,
merci
ouais,
de suivre.
Ouais, mais bon.
Okay. Oh, pourquoi j'ai fait pleurer les Mexicaines?
Ah, voilà.
J'ai fait chanter les Mexicaines.
Ouais, ça, c'est pleurer. Attention.
Une grande gueule qui, comme Lionel Messi, a aussi trempé dans les hormones de croissance depuis tout petit. Marc Madio, salut Marc.
Non, là, tu me réveilles.
Bah oui,
oui. Marc,
je stimule,
salut.
Comme on dit.
Ça n'a pas marché, par contre, apparemment.
On ne sait pas, on ne connaît pas son intimité.
Ah, oui.
Et puis une grande gueule qui, comme Lionel Messi, il faut que toute l'équipe soit à son service pour le voir briller. C'est Jean-Louis Tour. Salut Jean-Louis.
Salut JC, salut tout le monde. Salut. Une bonne définition, ça me va.
Salut Jean-Louis.
Jean-Louis, salut, notre Jean-Louis. Grande salut, gueule en bon direct du Qatar. Il est avec nous tous les week-ends durant la Coupe du Monde. Jean-Louis, t'as pu aller voir un match ou pas? Pas du tout. Jamais.
Et j'ai vu un bout d'Argentine-Mexique hier. On s'est régalé. C'était énorme.
C'est-à-dire un bout.
T'es un menteur, on s'est pas régalé. C'était pas terrible.
C'était nul.
Non, mais ah bah, l'ambiance dans les tribunes. Ah bah excusez-moi, on n'a pas vu la même chose. Ouais, on n'a pas vécu la même soirée.
Oui, nous on est devant la télé. Alors,
mais
c'est vrai
quoi. Bon, j'arrive, je vous dis, je me suis régalé. Vous êtes capable de me dire non, tu t'es pas régalé. Mais vous êtes incroyable.
Bah, je crois que tu parles de la qualité du match.
Bah, je vous dis ce que j'ai vécu.
Tu as raison, il y a l'ambiance.
Que le match, je pensais que tu es régalé.
Mais attendez, mais moi je veux savoir sur l'histoire du bout. T'as vu quel bout? Pourquoi t'as
manqué? Parce que j'étais à l'antenne juste avant, et le match de l'équipe de France, le débrief, et le temps qu'on aille au stade.
Travail, j'en ai là-bas.
Raté un peu le début.
Ah bah, tant mieux, t'as raté une partie de la première période, fallait voir la deuxième. Ouais. Donc c'est super, parfait.
Donc tu pouvais faire deux stades dans la même journée.
Mais c'est ça, le Qatar.
Il y a pas des mauvaises choses alors au Qatar.
Mais oui, voilà.
Tu fais le tour du Qatar. Il y a bien un tour du Qatar.
Il y avait.
Il y avait de l'argent.
Alors, il y avait un tour du Qatar, ils ont organisé un championnat du monde, et c'est pas le foot les premiers.
Ah, c'était d'ailleurs. Magnifique le championnat du monde. Dans le désert,
ouais,
c'était
dans le
super.
Vraiment,
c'était le plus beau championnat du monde qu'il y ait jamais eu.
D'accord.
Et toi, en plus, avec ton équipe, avec toutes les couleurs, tu pourrais même pas rentrer dans les stades, de toute façon.
Et c'était à quelle période de l'année?
Le championnat du monde, c'était en fin de saison, mais le tour du Qatar était en janvier.
Attention,
comment il fait le vainqueur du champion du monde avec son maillot arc-en-ciel pour.
C'est ce qu'a dit Christophe.
Ils lui remettent pas sur le moment.
C'est bien la preuve qu'on peut toujours s'arranger.
Ah, d'accord. Très bien. On vient de me dire qu'on s'en fou, voilà, et qu'on vient de perdre des millions d'auditeurs déjà. Donc on va
discuter, mais c'est sûr qu'avec ton intro, c'est tellement long.
On va pas discuter de sport.
Bon, bah, pas
c'est toi qui me parles de longueur, Christophe.
C'est gratuit.
Bah, oh, ça va, on s'amuse.
Allez, mais non, on s'ennuie, on perd des auditeurs. Je te dis.
C'était hier sur RMC, c'est parti.
RMC, Coupe du Monde de la
FIFA 2022.
La une des grandes gueules du sport.
La remontée de balle, Théo Hernandez avec Kylian Mbappé. Dans l'axe, il y a Dembélé. Au deuxième poteau, il y a Giroud. Avec Mbappé, l'accélération, le dédoublement. Théo, le centre en retrait. La frappe de Mbappé. Et le but.
Et c'est le moment.
Il y a Mbappé qui libère l'équipe de France. 1-0 pour les Bleus. Comment qu'il la laisse à Griezmann. Griezmann qui va se centrer fort devant le but. Mbappé.
Oui.
Le doublé.
Oui.
De Mbappé. Le doublé de Kylian Mbappé. De la poitrine. Je pense qu'elle est battue. Ça fait 2-1 pour l'équipe de France.
C'est fini.
Voilà. C'est terminé. L'équipe de France s'impose face au Danemark.
On a répondu présent sur le terrain, que ce soit Griezmann, n'importe quel autre joueur. On nous a critiqué, ça fait des mois, mais on l'a fait. On est qualifié et on va aller au bout.
L'équipe de France est qualifiée en 8e de finale de la Coupe du Monde.
Super le match, on est super content. On n'a pas fait un aller pour rien. On est vraiment super content.
Pour moi, on va gagner la Coupe du Monde. Comme il y a 4 ans, on va la ramener à la maison.
RMC. Radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.
Les Bleus ont mis fin hier à la malédiction, une malédiction qu'ils avaient eux-mêmes créée il y a 20 ans, celle de voir le champion du monde en titre se faire sortir en poule lors de l'édition suivante. C'était donc le cas en 2002 avec les Bleus, en 2010 avec l'Italie, en 2014 avec l'Espagne et en 2018 avec l'Allemagne. Ça c'est pour l'anecdote. Les faits maintenant, les Bleus réalisent un parcours parfait depuis le début du mondial, 2 matchs, 2 victoires. L'équipe de France est la première équipe qualifiée pour les 8e de finale de cette Coupe du Monde. Alors la musique qui fout les jetons et cette question. Les Bleus déjà qualifiés, est-ce un événement ? Oui ou non ? Christophe Cessieux ?
Oui.
Marc Madiot ?
Non.
Stéphane Brun ?
Non.
Denis Charvet ?
Non.
Jean-Louis Tour ?
Bah oui.
2 oui, 3 non. Les journalistes disent oui, les autres disent non. Avant de débattre, on va retrouver l'un des suiveurs des Bleus pour RMC à Doha. C'est Fabrice Hawkins. Salut Fabrice.
Salut JC, salut à tous.
Fabrice.
What's up Fab?
Fabrice, on imagine que les Bleus étaient fiers d'eux et de leur prestation hier soir.
Oui, très heureux, d'abord parce qu'ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale, mais aussi parce qu'ils l'ont, leur revanche contre les Danois après 2 défaites en juin et en septembre. Le défenseur Jules Koundé retient aussi le caractère montré par les Bleus.
Beaucoup de joie forcément, beaucoup de joie pour s'être qualifié forcément, mais aussi pour la manière dont on a joué. Je pense qu'on a fait un match complet, on s'est créé pas mal d'occasions, on a été solide défensivement, on a su rester bien concentré à l'exception de ce but, mais même quand ils ont réussi à égaliser, on a bien réagi, on n'a pas baissé les bras.
Une nouvelle fois élu homme du match, Kylian Mbappé a épaté ses coéquipiers avec son doublé. Il est au niveau auquel on l'attendait, un vrai leader pour le capitaine Hugo Lloris.
Je crois qu'avec un joueur comme Kylian, il est difficile de mettre des limites. C'est un compétiteur, on le voit. Le plus important, c'est qu'on le sent heureux, concentré, appliqué, décisif, parce qu'on va avoir besoin de Kylian à ce niveau-là tout au long de la compétition.
L'autre bonne nouvelle, c'est que, sauf mauvaise surprise, la France devrait finir en tête de son groupe. Donc ceux qu'on appelle de manière un peu péjorative d'ailleurs, les coiffeurs, auront du temps de jeu. Qui va jouer ? Didier Deschamps, pas le plus expansif, n'a pas voulu donner plus de précisions à notre confrère.
Coach, étant donné que l'équipe est qualifiée, envisagez-vous de faire tourner l'effectif ?
Ouais. Oui. Et ça, deuxième question. Sûr. Oui, ça c'est sûr, oui.
Par rapport à...
Demandez pas qui, comment, beaucoup, forcément... Je ne prendrai pas de risque puisque nous, on est assuré de quelque chose.
Voilà, on n'est pas plus avancé, mais c'est aussi important pour la vie de groupe que le maximum de joueurs puissent participer sur le terrain à cette aventure Coupe du Monde. Et on le ressentait hier dans les travées du staff 974.
Merci beaucoup, mon cher Fabrice. Sache que tu restes un petit peu avec nous pour nous donner aussi le programme de cette équipe de France avant ce 3e match. Donc mercredi face à la Tunisie, forcément à suivre sur RMC. Notre question, est-ce un événement, les Bleus déjà qualifiés pour les 8e de finale ? Oui, non, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Pourquoi oui, Christophe Cessieux ?
Bah, alors, événement, le mot est peut-être un peu fort. On était à peu près tous convaincus que la France se qualifierait pour les 8e de finale à l'issue des 3 matchs de poule, mais peut-être pas aussi vite et avec une une telle assurance. C'est ça l'événement. Les voir déjà avec leur billet en poche après deux matchs et avec la manière qu'ils ont montré, moi je trouve que c'est un événement. Je vous cache pas que moi j'étais plutôt pessimiste pour les Bleus avant le début de la Coupe du Monde, avec ces forfaits à répétition, ces absences en défense au milieu de terrain. Je craignais un peu le pire quand même. Peut-être pas se faire éliminer en huitième, avant les huitièmes, mais c'était quand même pas très très rassurant. Ajouter à ça le forfait de Benzema, quand même désigné meilleur joueur de l'année, ça faisait beaucoup. Et en plus, les dernières sorties des Bleus avant la Coupe du Monde étaient vraiment pas rassurantes. Comme quoi, faut jamais se fier aux rencontres précédentes de Coupe du Monde. Elles veulent rien dire. On l'a vu notamment avec l'Argentine, par exemple, qui est restée sur une série d'invincibilité hallucinante et qui s'est fait sortir, enfin pas sortir, mais taper par l'Arabie Saoudite. Alors évidemment, on n'est pas encore champion du monde, mais j'ai.
Ah bon?
Peu de souvenirs d'une équipe de France aussi impériale en début de Coupe du Monde. En 2014, on avait remporté nos deux premiers matchs, mais c'était face au Honduras et la Suisse. Là, tu bats le Danemark sur laquelle on restait contre deux défaites. Je trouve que cette équipe a beaucoup de talent, et dans toutes les lignes. Hernandez, Upamecano, Rabiot, ouais. Griezmann, Dembélé.
Bravo Christophe, c'est brillant, bravo.
Hier Christophe, il était pas à ta hauteur, maintenant il est à la hauteur aujourd'hui.
Il est excellent. En 24 heures, en 24 heures, il s'est remis dedans et c'est le grand Christophe Cessieux, la légende du journalisme.
Tu as raison, Jean-Louis. J'ai parlé pour ne rien dire, mais c'est pas grave.
Pourquoi moi, c'est pas un événement? Parce que j'ai été spécialiste quand même.
Oui, bien sûr.
Faire du bruit avec ta bouche, t'as un spécialiste.
Ouais, toi aussi, ouais.
J'ai fait beaucoup, là.
Enfin, pour moi, c'est pas un événement parce que j'ai fait partie de ces gens qui, 15 jours avant la compétition, ont clamé haut et fort que moi, j'étais positif sur cette Coupe du Monde, que cette équipe de France elle était forte, que malgré les absences, il y avait des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs. J'étais pas inquiet quand j'ai vu
la toujours été très positif.
Moi, j'ai toujours été très positif. J'ai toujours cru en cette équipe de France. Donc pour moi, c'est pas
aussi,
un événement.
Ça n'empêche pas.
Mais je peux comprendre qu'on puisse dire que c'est un événement par rapport à la loi des séries, des équipes championnes en titre qui sortent. C'est peut-être un événement. Là où je suis peut-être un peu surpris, et je peux aller dans le sens de Jean-Louis et de Christophe, c'est sur manière de jouer de cette équipe de France, voilà, qui pour moi est très enthousiasmante, avec des garçons qui surperforment pas parce que ce sont des joueurs de très haut niveau, mais que j'attendais peut-être un peu plus sous pression sur cette compétition et qui répondent aux attentes. Et moi, je suis pas surpris. Je serais surpris. Ça sera un événement si on gagne la Coupe du Monde. Là, oui. Là, sortir des poules en ayant gagné les deux premiers matchs. Christophe a beau me dire en 2014, Honduras, Suisse. Je suis pas sûr qu'il y ait une grande différence de jeu entre la Suisse et le Danemark. Le Danemark, on les a peut-être un peu survendus parce qu'ils nous ont tapé. Et pour moi, c'est pas une énorme équipe non plus, même si c'est bien meilleur que l'Australie. Enfin, moi, pour moi, c'est pas un événement que la France sorte des poules et aille en huitième de finale.
Non, mais dès le deuxième match, c'est assez rare. Et
oui, bien sûr.
Mais c'est pas rare, c'était le cas en 2010 et 2014.
C'est assez incroyable que non, mais qu'on s'enthousiasme par rapport à un match quand tu gagnes contre l'Australie où il n'y a rien, il n'y a pas d'équipe. Et après, tu bats le Danemark qui n'est pas une grande équipe du Danemark, je suis désolé. Si vous avez vu une grande équipe du Danemark, moi.
On fait la fine bouche ce match.
Non, je ne suis pas fine bouche.
Je dis même pas
comment. Mais je dis comment tu peux dire. Mais c'est marrant, un but à la 87e minute, ça change le monde.
On est quand même champion du monde.
Non, mais attends. Non, je dis s'il y a un ou ce matin, un, c'est pas le même débat du tout. Du tout.
Ouais, enfin, c'est pas.
Ah, non,
c'est
mais
je vous dis. C'est pas le même montant pour ton porte-monnaie aussi, j'ai l'impression.
Contre l'Afrique du Sud la semaine dernière. Et puis il y a un joueur, on a le meilleur joueur du monde. Je suis désolé, c'est comme si l'année prochaine on joue la Coupe du Monde sans Dupont, ça sera pas la même équipe et on sera jamais champion du monde. Demain, t'enlèves Mbappé cette équipe, tu seras jamais champion du monde. Donc moi, je suis pas du tout enthousiaste comme vous. Je dis, c'est pas un événement du tout et que la première marche, elle est montée, c'est tout.
Voilà. Ok. Voilà. On s'arrête là.
Okay. On s'arrête là. Alors après, le contenu.
Je finis.
Je suis pas bisproche, je suis réaliste, je suis lucide. Après que Ben Dembélé enrhume la défense, que Mbappé enrhume la défense danoise aussi facilement, excusez-moi, si vous êtes content, tant mieux pour vous.
Ok, voilà, Jean-Louis, tu peux lui répondre et après Marc Madio.
Je prends déjà la définition du petit Robert. On m'a demandé de faire ça hier. J'ai appris qu'il fallait
événement.
Faire ça hier.
Événement. Allez,
événement,
vas-y.
Ce qui arrive et qui a de l'importance pour l'homme. Si vous m'expliquez ce qui s'est passé hier, il n'y a aucune importance.
Pour l'homme,
j'en doute. Oui. Pour l'équipe de France, pour ce qui s'est en interne, pour je suis persuadé que c'est un match fondateur pour aller loin dans cette Coupe du Monde. Vous l'avez dit, il y avait plein de doutes autour de cette équipe. Les forfaits, les défaites récentes contre le Danemark, etc. Là, hier, on a remis l'église au milieu du village. On a un vrai match consistant. On a une vraie base. Et excusez-moi, mais on a trop connu des échecs en phase finale de grandes compétitions pour faire la fine bouche quand on est qualifié sur cette première après deux rencontres.
Mais bien sûr que si. T'as réussi à trouver une ligne potable là-bas à Qatar pour leur raconter des trucs comme ça.
Mais c'est pas Jean-Louis.
J'ai toujours eu une bonne ligne.
Marc qui veut répondre à Jean-Louis, après Denis, tu pourras y aller.
Il y a un moment où il faut être sérieux.
Oh bah, je suis
on
très
a
sérieux,
fait une belle étape de plaine.
Voilà,
on a bien gagné,
voilà.
Mais ça s'arrête là.
Bravo, Marc.
Tout nous attend. Bravo, tout nous attend.
On est un peu plus qu'une étape de plaine.
Non, c'est une plaine. Je vais être gentil, je vais rajouter quelques pavés. Belle étape de plaine avec un peu de pavé, un petit peu de vent. C'est tout.
Je n'ai pas vu.
Ça s'arrête là. On est en situation pour bien continuer cette Coupe du Monde.
Si Thibaut Pinot finit trois étapes de suite, est-ce que c'est un événement, ça?
Mais il finit plus de trois, il en fait même parfois quatre.
On peut ressortir du cycle.
Moi, là où je comprends pas, c'est que bien réussir son entrée en Coupe du Monde, bien réussir ses deux premiers matchs, c'est déjà un événement en soi. Surtout quand on raconte tout ce qu'on a raconté sur l'équipe de France. C'est trop facile d'arriver maintenant et de dire, il s'est rien passé avant, on a battu que le Danemark.
On n'est pas en train de dire que c'est pas bien ce qu'ont fait les Bleus.
Mais ça reste un événement, je suis désolé. L'événement, c'est pas juste la finale de la Coupe du Monde, qu'on gagne ou qu'on perde. Il y a tout le chemin avant pour arriver à la finale et il y a le contenu.
Jean-Louis, c'est la normalité. C'est la normalité pour l'équipe de France, champion du monde en titre avec les joueurs de cette qualité, c'est la normalité.
Reprenez la qualité des matchs à l'Euro. Attention. À l'Euro, on était champion du monde aussi. La qualité des matchs est moins bonne, elle est moins maîtrisée que ce qu'on a vu pour l'instant. Moi, je trouve que c'est un événement déjà de voir ce qu'on a vu depuis deux matchs.
Jean-Louis, toi, ce que tu qualifies d'événement, c'est pas la qualif en huitième, c'est la qualité de jeu proposée.
Oui. Ce que montre l'équipe de France sur ce début de Coupe du Monde.
Marc Madiot, s'il vous plaît.
On balance les belles fleurs, mais. Et si en huitième on se fait jeter, qu'est-ce qui se passe?
Non mais on écoutera Jean-Louis.
Ce sera un échec, on sera là pour le dire, il n'y a pas de souci. Mais ça peut rester un événement, notre entrée dans la compétition.
Mais je comprends pas que vous soyez bluffé.
Et si on va au bout, on se souviendra de ce match contre le Danemark.
Oui, non mais moi je comprends pas que sur un match comme on a vu hier, je suis désolé, comment tu peux être bluffé et dire que c'est un événement?
Mais les Bleus m'ont séduit, je suis désolé Denis, toi tu es un pisse-croix, donc tu prends pas de plaisir. Mais ce match, ça faisait très longtemps que l'équipe de France de foot ne m'avait pas régalé comme elle m'a régalé hier soir. Débordement de Dembélé, actions de classe de Mbappé, la défense Super Mécano qui est quand même incroyable.
Mais il joue au Bayern, qu'est-ce que tu me racontes? C'est un des meilleurs joueurs de défense.
Mais on le voit pas depuis deux ans, ça, Denis, c'est son premier gros match en bleu, Super Mécano.
Attention.
Il m'a expliqué qu'il joue, il joue au Bayern.
Mais c'est son premier gros match avec l'équipe de France.
Et bien, t'es surpris de ça,
mec. Mais en équipe de France, il n'avait jamais réussi un match aussi abouti. Voilà, c'est tout.
Marque quand même.
Mais ils viennent de nous taper à deux reprises. Okay, c'est pas du tocard, quoi.
On vient de voir sur deux matchs des choses qu'on ne voit pas depuis deux ans et demi. Mais il faut être là pour le souligner quand même. C'est trop facile de banaliser un truc qu'on ne voit pas depuis deux ans et demi. La défense solide.
Steve, tu me dis, oui, hier c'est un match capital.
Oui, capital.
Et aujourd'hui, c'est pas un événement.
Ah là, c'est vrai que ça manque de.
Elle est où ta ligne là?
Non, là, Stephen, c'est
il aime pas quand on contredit,
il déteste cette contredit. Steve, tu t'es égaré en 24 heures.
Je reprends juste la main, tu vas pouvoir répondre à Christophe. Je reprends juste la main, juste pour vous dire, les copains, c'est un débat animé, enflammé. Je vous ai un peu boosté au début. Vous remplissez votre rôle à merveille. Juste essayez de vous écouter, parce qu'on fait pas juste l'émission pour nous. Et j'imagine que la personne qui. Oui, c'est un petit rappel à l'ordre. J'imagine que la personne qui vient.
Dans toute ma carrière, c'est ce que j'en ai fait des rappels à l'ordre.
Oui, tu sais ce que je fais de ton contrat avec mes rappels à l'ordre.
Ouais.
Vas-y, Stéphane, tu peux répondre à Christophe.
Non, et après, il y a quand même une différence entre est-ce que c'est un match capital pour la suite de la compétition. J'estimais que oui.
Mais et parler d'événements.
Et parler d'événements sur une qualification en huitième de finale. Jean-Louis, en fait, j'ai l'impression que Jean-Louis, toi et moi, on est d'accord. On s'enthousiasme sur ce qu'on a vu sur le terrain produit par cette équipe de France parce qu'on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Et là, je vous rejoins sur la qualité du jeu. On a été surpris.
Précisons que c'est toi qui es d'accord avec moi.
Je suis d'accord avec toi, Jean-Louis.
Continue l'argumentaire.
Mais oui, on est d'accord parce qu'on a vu des joueurs. Il n'y a pas un mec qui est passé au travers hier. Je vois pas sur qui on peut tomber hier sur le match des Bleus. Antoine Griezmann, bref, tout le monde était fantastique. On va pas les faire un par un. Mais après, de voir la France qualifiée en huitième de finale après deux matchs, on le doit aussi parce que le Danemark s'est troué sur la première rencontre. Moi, je trouve ça normal. Champion du monde en titre avec la qualité des joueurs qu'on a, quand on a une poule comme la Tunisie, l'Australie et le Danemark, je trouve ça normal d'aller en huitième de finale.
Le petit côté.
En fait, moi, je vais vous dire sans blaguer, le truc qui m'énerve en fait, c'est quand on relativise en permanence les victoires, quand on prend le mur de dire bah vous avez vu, on a eu raison de relativiser. À un moment donné, en 2018. C'était
c'était la même chose. On a battu que l'Uruguay, il manquait tel joueur. On a battu que un tel, on a battu que l'Argentine diminuée. À un moment, soyons capables de savourer et de mesurer ce que c'est un événement d'une bonne enfance.
Jean-Louis, je suis d'accord avec toi, mais sauf que là, on fait un débat. On répare un débat. Je suis désolé, c'est la normalité que la France soit au second tour quand même. Ou si tu me dis l'inverse.
Denis, non, t'es assez expérimenté pour avoir connu aussi des moments où on ne sortait pas des poules, où on avait du mal pour ne pas bouder son plaisir aujourd'hui.
Sauf que pour répondre à la question, je suis désolé, ce n'est absolument pas un événement dans la mesure où t'es champion du monde, t'as peut-être le meilleur joueur du monde dans ton effectif qui te fait gagner à chaque fois. Excuse-moi, c'est la vérité. Donc, c'est bien le meilleur joueur du monde.
Et on le voyait pas récemment.
Ah, on le voyait pas. Et puis, sauf que ceux que tu voyais en dessous, excuse-moi, c'est parce qu'ils n'étaient pas au rendez-vous. Que c'est que. Alors, pas Mécano, je sais plus comment il s'appelle, mais j'arrive plus
dans la question. C'est bon.
Bravo, Denis.
Lui, normalement, il aurait fait être bon tout le temps. C'est une normalité.
Sauf qu'il ne l'a pas été jusque-là.
Et pour ça,
il ne l'a pas été jusque-là en équipe de France.
Mais attends, ce qui en fait un événement.
Alors là, je suis d'accord avec toi.
Mais pas Mécano. C'est un événement. Il est jeune en équipe de France et il y avait des gens devant lui. Il y avait Varane, équipe Mbappé. Désolé. Donc là, il a été installé en tant que titulaire. Et en tant que titulaire, il est
quand t'es la peau d'un mec où tu sais où tu vas jouer tous les matchs et que t'es titulaire que quand tu dois jouer en équipe de France où t'es censé prouver pour gagner ta place et être bon. C'est pas la même pression.
Christophe, on a récupéré Denis, on a récupéré Stephen.
Il y a juste Marc, et ce serait une dernière observation, Marc. Pour toi, je parlais de malédiction. Alors, c'est de l'ordre de l'anecdote, mais tout de même, quand on est champion du monde en titre, il y a plus de pression sur ses épaules, ça c'est un fait aussi. Et parfois, c'est aussi dur de se renouveler pour une équipe parce qu'un sélectionneur veut prendre les mêmes joueurs qui ont réussi 4 ans plus tôt. Et on voit que, dans l'histoire récente du foot, ça a été difficile de sortir des poules. Juste, est-ce que là-dessus, le fait que Didier Deschamps, peut-être aussi avec tous ces forfaits, a réussi à construire quelque chose. Est-ce que ça fait partie de l'événement, quand même?
Si tu veux, on va appeler ça un événement, mais Deschamps n'a fait que remplir sa tâche en réunissant des joueurs autour d'un projet. Après, il y a eu les événements Benzema, dont on va reparler tout à l'heure, mais je pense qu'il a su utiliser les difficultés rencontrées pour galvaniser et fédérer tout le monde autour de ce projet, en leur disant, écoutez, on a des difficultés, ça va peut-être être compliqué, mais on n'a plus rien à perdre, on a tout à gagner. Donc, ils se sont mis dans un rôle d'outsider et une monte en pression progressivement. Je pense que Deschamps, il est parfaitement lucide par rapport à la situation. Il a rempli la première case et il va se projeter sur la deuxième, comme d'habitude.
Fabrice Hawkins, un mot avec toi en direct de Doha, le programme des Bleus, là, le programme qu'attend nos Bleus avant le troisième match face à la Tunisie. On a entendu Didier Deschamps. Il devrait vraisemblablement faire tourner pour ce troisième match maintenant.
Oui, c'est l'idée de faire tourner, de voir des garçons qu'on n'a pas énormément vus, ceux qui sont rentrés en jeu, notamment, je pense à Marcus Thuram, peut-être pas dans un rôle de titulaire dans un premier temps, mais Youssouf Fofana devrait avoir plus de temps de jeu, Matteo Guendouzi aussi sans doute, peut-être pourquoi pas revoir Ibrahima Konaté aussi en défense, reposer justement Dayo Upamecano, vous en parliez, qui a fait de bonnes performances. Et puis en ce qui concerne le programme, ce sera entraînement et conférence de presse jusqu'à mardi. Aujourd'hui, c'est Raphaël Varane et Théo Hernandez qui vont s'exprimer devant les journalistes, et puis mardi, on sera déjà en veille de match. Donc, comme d'habitude, Didier Deschamps en conférence de presse, l'entraînement. Et puis, tranquillement, la mise en place pour l'entraînement. On va justement savoir, commencer à avoir des petites billes sur qui va pouvoir jouer mercredi. Et ensuite, le match, donc, le dernier contre la Tunisie, mercredi.
Merci beaucoup, Fabrice. Toutes les informations sur les Bleus à retrouver, évidemment, sur rmcsport.fr. À bientôt, tout au long de la journée, Fabrice Hawkins, au plus près de notre équipe de France. Jean-Louis Tour, merci. On te retrouve à 10h.
Parler. C'est pas obligatoire, Jean-Louis.
Pour parler de
avec plaisir,
de
moi je suis très
bleus.
Content de vous retrouver.
Et je sais ce que t'as vu hier ou pas Mécano, il a fait des contrôles techniques.
Mécano. Oh. Ah, c'est excellent. C'est excellent. Non, c'est bien.
Merci Jean-Louis, tu peux revenir à 10h, Jean-Louis. Salut mon gars.
Ouais. Qui vous impressionne le plus depuis le début du mondial, Mbappé ou Griezmann? On aura ce débat à partir de 10h. Dans quelques instants, la punchline des GG, signé Aurélien Tchouaméni, qui a tenu à revenir sur l'histoire Karim Benzema. A tout de suite sur RMC.
RMC. Les grandes gueules du sport, Jean-Christophe Drouet.
9h34 en France, 11h34 au Qatar. Bonjour à tous si vous venez de nous rejoindre. Bon dimanche, bon petit déjeuner, les grandes gueules du sport, votre émission tous les samedis et dimanches, exceptionnellement ce week-end jusqu'à 11h avec ce match, l'intégrale Coupe du Monde, Japon-Costa Rica à partir de 11h, l'équipe autour de Pierre Dorian en direct de Doha. Toujours avec Christophe Cessieux, Stephen Brun, Marc Madio, Denis Charvet dans moins de 10 minutes. Le zapping des GG, on s'en fout pas, Lionel Messi qui remet à l'endroit l'Argentine, est-ce que ça vous intéresse ou non? Vous me direz, sinon j'ai d'autres d'informations, notamment croustillantes à vous donner sur le mondial. Mais tout de suite, vous le savez, à cette heure-là, on va commencer avec une punchline. Après la qualification pour les huitièmes de finale, les Bleus ont tenu à répondre à la presse. Il y a quelques jours, l'after, par la voix de Daniel Riolo, annonçait que le départ de Karim Benzema avait un peu libéré le groupe France. Une info sujette à interprétation, car évidemment, personne ne dit que les Bleus étaient contents de voir partir le Ballon d'Or. Hier, le journal L'Équipe, qui s'appuie sur plusieurs témoignages, affirme que l'atmosphère serait plus légère depuis le départ de l'attaquant madrilène. Les Bleus sont évidemment dans une bulle au Qatar, mais une bulle où on lit l'équipe et où on écoute RMC. Son coéquipier à Madrid, Aurélien Tchouaméni, s'avance devant les médias hier après la qualification, sans qu'aucune question ne lui soit posée sur le sujet. Il rétablit la vérité. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
C'est vrai que le groupe se sent bien, on vit bien tous ensemble. D'ailleurs, je voulais revenir sur quelque chose qu'on a vu concernant le départ de Karim, sur le fait qu'apparemment on se sentait mieux depuis qu'il est plus là. C'est totalement faux, parce que même quand il était là, ça se passait déjà très bien. Et on a tous été peinés par ces différents forfaits. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que depuis le début, qu'on est arrivé, ça se passe super bien entre nous.
Vous allez devoir répondre à cette question après avoir entendu hier soir Aurélien Tchouaméni. Cette mise au point était-elle obligatoire ? Oui ou non ? Christophe Cessieux.
Oui, c'est bien vu, obligatoire, j'en sais rien, mais c'est bien vu de sa part.
Marc Madiot.
Plutôt non.
Plutôt non. Stéphane Brun.
Oui, moi ça me plaît.
Denis Charvet.
Oh oui, ça va.
Plutôt non. Pourquoi, Marc ?
Tout simplement parce qu'on remet sur la table un sujet qui aurait pu s'éteindre tout seul. Quand on a un groupe, il y a un certain nombre de places. Quels que soient les individus et la notoriété ou l'importance des individus dans le groupe, ça fait toujours un pour un. Et quand un joueur est en moins sur la liste, ça donne une place en plus à un autre. Donc, il est tout à fait normal et naturel et humain de penser que quand il y en a un en moins, il y a une place de gagner pour un certain nombre de joueurs. Mais ça s'arrête là. Je pense que quand au moment où on fait les compos d'équipe et les sélections, on est confronté à ce genre de situation. Et quand on est joueur, ben on compte. On sait qu'il va y avoir trois gardiens. S'il y a un gardien qui se blesse, ben ça gagne une place, par exemple. Ou pour un avant-centre, c'est la même chose. Et ça s'arrête là. Après, les relations entre les uns et les autres font que on a plus ou moins d'affinité avec tel ou tel joueur parce qu'on le connaît, parce qu'on le côtoie en club et autres. Mais ça, je pense que la situation s'arrête là. Après, il faut quand même se souvenir que Benzema est un petit peu de retour au sein de cette équipe de France. Il y avait quand même un noyau dur et une équipe qui tournait, qui vivait et qui a quand même été championne du monde sans Benzema la dernière fois. Donc le fait qu'il y ait un retour de Benzema, ça crée forcément une turbulence naturelle, hein, sans remettre en cause la qualité de Benzema ou la personnalité de Benzema. Il y a une turbulence qui s'installe médiatiquement déjà aussi, on le sait, on l'a vu, on le comprend. Donc à partir de là, il y a forcément du mouvement et un joueur en moins, c'est une place de plus.
Ok, ça te plaît toi, Stéphane ?
Ça me plaît. Déjà, la première information, c'est que souvent on dit parfois que les joueurs, le groupe ne suivent pas ce que disent la presse et tout ça. Là, on s'aperçoit que...
Mais si, ils ont que ça à faire.
On s'aperçoit qu'ils lisent tout, ils sont au courant, de tout. Moi, ça me plaît parce que déjà, Karim Benzema n'a pas fait une croix sur l'équipe de France. Je crois qu'il y a un euro bientôt. Pour l'instant, Karim Benzema, il est international français et j'ai eu la grande chance d'être à l'euro à la prochaine compétition. Et de deux... Il faut éteindre ces fausses rumeurs ou ces choses qui peuvent nuire à cette équipe de France, parce que Karim Benzema a fait partie intégrante de cette équipe de France. Je crois que c'est important pour les joueurs de dire arrêtez à un moment donné de dire n'importe quoi, d'envoyer des faux messages, d'envoyer des fausses rumeurs pour justement peut-être créer un déséquilibre entre Karim Benzema et l'équipe de France, peut-être pour créer des histoires sur Kylian Mbappé veut être le seul leader unique de cette équipe-là. Voilà, l'incendie il est éteint. Il a dit aux journalistes en gros vous avez raconté n'importe quoi, tout est faux. Peut-être que c'est la perception de Aurélien.
Il n'y a pas d'incendie. Il n'y a rien.
Sauf que quand mardi, ça se serait éteint tout seul. Non.
Mais non,
ça ne s'éteint pas tout seul quand c'est Karim Benzema,
oui,
quand c'est l'équipe de France. Surtout si l'équipe de France performe dans cette Coupe du Monde et va très loin, ça reviendra sur le tapis, sur les prochaines.
Mais c'est en réagissant comme ça qu'on met le feu, justement.
Mais Denis,
toi, tu es en train de faire un drame, un mélodrame de rien.
Denis, on est dans une émission ou des débats sur Karim Benzema quand il revenait en équipe de France, finalement, les champions du monde. On l'aurait fait 250 fois.
Mais on parle de quoi? Benzema, il a l'habitude, c'est sa vie de tous les jours depuis 20 ans. De quoi vous parlez? Ils sont habitués, ces gens-là.
Mais là, c'est pas Karim Benzema qui dément. Oui. C'est coéquipier.
Il dément parce que Karim Benzema lui-même. D'accord, mais c'est rien pour moi. C'est un rien. C'est-à-dire que le mec, Tchouaméni, il est là en conférence de presse. Il sait qu'il a entendu des rumeurs, tout ça. Il dit, bon, écoutez,
avant, ça vient de lui, hein.
Mais justement, c'est ce que je te dis. Avant qu'on me pose une question, avant qu'on m'emmerde avec Benzema, voilà, sachez que là, il n'y a rien, ok? Voilà, c'est tout. C'est que c'est, le problème, c'est que parfois, les journalistes, et je parle pas de chez nous, de trucs, on fait d'un drame, d'un rien. Et que c'est bien parce qu'on entretient le buzz, qu'on fait monter la sauce. Et, mais tu le sais, ça.
Je vais juste répondre à ça et je vais laisser la parole à Christophe. En fait, ce qui me gêne dans cette histoire, et tu as totalement raison, ce qui me gêne, c'est quand tu donnes une information en disant que le groupe vit très bien, ok, et se sent plus libéré par le départ de Karim Benzema, souvent c'est interprété, et je pense à tort, par genre, on est plutôt content que Benzema
bien sûr,
soit
mais
pas
tout
là.
À fait ça.
Alors que pas
ça
du tout.
Rien à voir.
Je pense
et
que,
si, il a raison, c'est l'interprétation.
Je pense qu'il est naturel de penser que tout était focalisé sur la blessure de Benzema, un petit peu comme Zidane. Personne n'est content que Zidane ne joue pas les matchs en 2002, on est d'accord. Mais sauf que, bah peut-être que ça soulage un peu les joueurs de se dire que on est tous tendus parce qu'on est tous observateurs de cette cuisse de Karim Benzema. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le lire
et
seulement.
Que c'est pesant,
et rien à voir avec Karim Benzema lui-même. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le lire. Et donc je pense
dont c'est tourné, c'est pas la façon dont tu l'expliques.
Peut-être, mais je pense que c'est une vraie information à la base qui est vite détournée parce que c'est Karim Benzema. Moi, c'est ça qui me gêne.
Parce qu'on est en plein cœur d'une Coupe du Monde et que la moindre petite information, on sait que les journalistes sont pas du tout au contact des joueurs. Ils les voient de temps en temps en conférence de presse, deux par jour, c'est tout.
C'est plutôt
comment ils ont ces informations?
Par l'entourage.
Question, ils ont droit au portable, les joueurs, là-bas? L'information circule en direct.
Évidemment. Mais évidemment.
Après, c'est les
joueurs.
Bah, évidemment.
Mais en rugby, évidemment. Mais après, il y a un truc sous-jacent aussi, c'est l'histoire. Et il y a un truc dont on ne parle pas, mais qu'il faut parler, c'est quand même, il y a Giroud derrière aussi, quand même, qui alimente Mais c'est-à-dire, est-ce que Giroud doit venir, pas venir?
Enfin, il alimente, tu veux dire, par ses performances.
Oui, mais. Le débat, il alimente le débat. Le débat de.
Tu vois ce que je veux dire. Par ses performances, il peut alimenter le débat.
Non, mais on dit, est-ce qu'il doit y être, est-ce qu'il doit pas y être pendant un mois avant la Coupe du Monde? On dit, il mérite parce qu'il joue bien. Il va pas y être, il va y être. Donc si tu veux, de notre côté aussi, on se débarrasse d'un autre problème, si tu veux. Puisque Giroud est là, maintenant il n'y a plus Benzema, et en plus il est bon.
Donc, okay.
Si tu veux, imagine que Giroud ne marquerait pas, n'aurait pas été bon.
On est parti sur l'inverse, ok. Christophe, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai été coupé, je sais plus.
Oui, c'est quand même ton ami Marc qui t'a coupé. Enfin,
oui, je sais pas.
Alors, je voudrais vous conter cette information. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Karim Benzema, qui serait toujours dans le groupe de l'équipe de France, en tout cas dans le groupe FIFA de l'équipe de France, parce qu'il n'a pas été remplacé. Ce qui voudrait dire que si la France est championne du monde, Karim Benzema serait également champion du monde.
Il pourrait revenir
s'il est encore dans la liste FIFA, il peut revenir. Bon, ça n'arrivera pas, évidemment.
Mais il a le droit de revenir en cours de compétition.
Bah parce qu'il n'est pas chassé.
Il est toujours dans la liste.
Je ne savais pas ce qu'il faisait. S'il est toujours dans la liste FIFA, il peut revenir.
Je pensais qu'une fois que tu quittes le mondial,
tu prends les primes et il peut revenir au cas où, paf, en finale.
On ne va pas faire une fantasme parce que ça n'arrivera pas. Mais en tout cas, il pourrait être champion du monde. Pas sûr que ça le console véritablement, mais bon, voilà, c'est une information comme ça à vous donner. Tu voulais rajouter quelque chose, non? Personnel merci.
Personnel merci.
On prend, voilà. On laisse Karim Benzema tranquille.
Tranquille. Ça va, il est déjà assez malheureux.
Sur le tranquille, il va être malheureux. Malheureux ou content? Malheureux ou content de voir la France gagner?
Est-ce que c'était important de faire cette mise au point quand même dans les grandes gueules du sport ce matin?
Oui,
c'est important de le faire, d'en parler, non?
Débat,
on peut toujours en parler.
Oui, c'est un sujet.
Est-ce qu'on fera une mise au point un jour sur la fausse bonne entente entre Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux?
Oui.
Et je pense qu'il faut, il y aurait des choses à dire, en tout cas.
Il y aurait beaucoup de choses à dire.
Il y a beaucoup de sous-entendus.
Il va falloir crever l'abcès.
Tout de suite.
Font-ils semblant?
Oui, c'est ça.
Vous savez quoi?
Partiront-ils en vacances un jour ensemble?
On se pose la question.
C'est une vraie amitié.
On se pose la question dans quelques instants sur RMC.
Alors, Christophe, tu dois partir en vacances avec JC. Faut poser beaucoup de jours de congé. Il part beaucoup en vacances.
Allez, Lionel Messi qui remet l'Argentine à l'endroit. C'est le appel des GG.
Entre lui et moi, tu vois.
À tout de suite.
RMC. Les grandes gueules du sport. Jean-Christophe Drouet.
9h47 en France, 11h47 à Doha. On est de retour dans les grandes gueules du sport. À partir de 11h, l'intégrale Coupe du Monde autour de Pierre Dorian et cette rencontre Japon-Costa Rica. C'est un groupe très chaud car le Japon s'est imposé face à l'Allemagne lors de la première journée et l'Allemagne qui affronte l'Espagne. Ce sera à 20h. Bref, restez bien avec nous sur RMC. Encore une journée magnifique de Coupe du Monde, toujours avec Denis Charvet, Marc Madiot, Stephen Brun, Christophe Cessieux. À partir de 11h, on reparle de notre équipe de France. Qui vous impressionne le plus depuis le début du mondial? Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé? Vous n'êtes pas d'accord? On vous attend évidemment sur ce débat aussi, chers auditeurs, au 32-16. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping de la Coupe du Monde.
Des informations à vous donner, à vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est Lionel Messi qui remet l'Argentine à l'endroit. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Je ne m'en fous pas.
Marc Madiot.
On ne s'en fout pas.
Stephen Brun.
Oui, on peut en parler.
Denis Charvet.
On parle de Dieu quand même. On s'en fout pas.
C'était pas Neymar, le fils de Dieu hier, ouais. Je sais plus qui est Dieu, qui est le fils de Dieu. Bref, en danger avant d'affronter le Mexique, l'Argentine évite donc l'élimination en s'imposant 2-0 grâce à Lionel Messi, buteur et passeur décisif. Lionel Messi, pas forcément inquiet après le match face à l'Arabie Saoudite. Il l'a dit hier après la rencontre.
Après la défaite contre l'Arabie Saoudite, on avait l'impression qu'on était éliminé. Donc c'est pas parce qu'on a gagné que maintenant on est les meilleurs du monde. Il faut atteindre notre objectif de terminer premier du groupe, c'est ce qu'on cherchait. Après c'est vrai qu'on a vécu des jours difficiles, beaucoup de tension, les nerfs à vif. Mais maintenant c'est un autre mondial qui commence, on est plus tranquille.
On est plus tranquille et évidemment l'Argentine garde des chances de qualification pour ses huitièmes de finale plus que jamais avant d'affronter la Pologne lors de la dernière journée. Leader la Pologne du groupe avec 4 points, Argentine 3 points, Arabie Saoudite 3 points, le Mexique 1 point. Qui veut se lancer sur ce sujet?
Mais juste pour dire que cette équipe, pour avoir vu le match, c'est une équipe crispée, sous pression et qu'effectivement qui n'est pas libérée. Donc à aucun moment elle est libérée, c'est le seul qui le libère cette équipe, c'est Messi. Ouais. Et heureusement qu'il est là, c'est-à-dire que tu te dis ça peut finir en 0-0. Sans ce génie-là.
S'il met pas cette frappe, les Argentins, moi je les vois partir encore sur un match bourbier, match nul, ils sont pas très bons. Les Argentins.
Avec exposé un contre
ils
aussi.
Étaient favoris,
hein,
ils étaient quasiment favoris avec la France et le Brésil. Hier, il y a que 5 tirs, dont 2 cadrés, face à une petite équipe du Mexique. Alors peut-être, est-ce qu'ils avaient cette chape de plomb et cette pression et qu'à un moment donné, quand ils vont, j'espère pour eux, pour la Coupe du Monde et pour les fans, être qualifiés, et peut-être qu'ils vont se relâcher et être un peu meilleurs. Mais c'est pas terrible.
Hein, mais quand on parle de match capital, là oui, c'est un match capital. Parce que si tu prends un but du Mexique, tu dors. Non, mais tant que tu vis avec la peur quand même tout le match. Hein.
Ce qui serait bien, c'est qu'ils montent quand même pas trop de niveau parce qu'on peut les prendre en 8e de finale quand même. Hein, donc ce qui serait bien, c'est qu'ils restent à ce niveau-là.
Il y a de bonnes chances. Pour se qualifier, évidemment, ils peuvent terminer deuxième de groupe, mais il y a de bonnes chances pour se qualifier. Il faut gagner face à la Pologne. S'ils gagnent, ils sont premiers. Ouais. Donc, il y a de bonnes chances peut-être de pas les avoir et de pas les rencontrer de nouveau
en revanche.
S'ils perdent,
ils peuvent être éliminés.
S'ils font match nul, ils ont 4 puntos. Après, il faut d'avoir l'autre résultat de Arabie Saoudite, Mexique.
Mais n'oubliez pas que s'ils perdent, ils sont éliminés.
Exactement. Marc, sur ce sujet.
Moi, je pense que l'Argentine va passer. Et je pense également qu'ils vont monter en qualité au fil des matchs. Chaque Coupe du Monde, on est en extasie devant des performances d'équipes dans les phases de poules qui s'éteignent au fur et à mesure dès les huitièmes. Donc moi, je pars d'un principe inverse avec l'Argentine. Je pense que progressivement, ils vont s'affirmer. On a vu des jeunes joueurs rentrer en cours de match hier qui sont intéressants. Et je n'élimine pas complètement l'Argentine des matchs.
Alors, tu as raison, normalement, c'est ça. Normalement, une équipe, voilà, elle monte en régime. Ah, puissance, comme l'équipe de France. Mais la différence, c'est que là, c'est une Coupe du Monde totalement différente.
Oui, il n'y a pas
eu la préparation.
Oui, et justement.
Donc il faut être prêt tout de suite. Il n'y a pas ce côté puissance pour être bon à
justement,
partir des
quarts. Pour moi, les grandes équipes vont monter encore plus en pression.
Mais là où je rejoins,
la Coupe du Monde était en.
Là où je rejoins Marc, c'est quand même que la qualité, c'est pas la même qu'en 2018. Hein, je suis désolé. C'est pour ça que je suis pas inquiet, mais quand même, cette équipe, il fera pas la croisée si vite.
Oui, bon, je trouverais ça plutôt pas mal aussi. Même si on a eu un match délicieux en huitième de finale en 2018.
Ça serait pas mal face à l'Arabie Saoudite, Renard contre Deschamps.
Ça serait bien.
En général, le Renard, il est souvent dans.
Non, mais je suis pas sûr que Deschamps peut faire l'Arabie Saoudite à l'Argentine.
Pas sûr. Ok, deuxième information dans le zapping des GG à vous donner. C'est Eden Hazard qui fait une Alain Delon en conférence de presse. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Je m'en fous.
Tu t'en fous, Marc Madiot.
On s'en fout pas.
Stephen.
T'as envie que je m'en foute ou pas?
Tu fais comme tu veux, tu es libre dans cette émission.
Je m'en fous pas parce que je la connais pas l'info.
Passé en conférence de presse, donc hier, à la veille du match de la Belgique face au Maroc, Eden Hazard a déclaré qu'il se sent bien physiquement. Jusqu'ici, bon, bah, Il n'y a pas grand-chose à ajouter.
C'est une belle formation déjà pour lui.
Mais voici ce qu'il déclare. Plus je vais enchaîner les matchs, plus je vais être bon. Je pense que la Belgique peut gagner la Coupe du Monde si Eden est bon. Si Eden n'est pas bon, ce sera plus compliqué.
Boulardino.
C'est sympa, non.
Moi je trouve pas ça sympa. C'est Boulardino. Wow. T'as pas à dire ça en conférence de presse, tais-toi. Tu dis,
ça fait partie des petits bonbons qu'on a tous les jours sur la Coupe du Monde. Ça alimente.
Mais ce qui est curieux, c'est que ce joueur-là, quand même, ne nous a pas quand même habitué à faire des sorties comme ça.
J'ai
trouvé souvent humble plutôt que plein d'humilité. Et là, ça lui correspond
surtout
pas.
Surtout dernièrement, avant le début de la Coupe du Monde, il expliquait son désarroi et en disant que c'était sa faute s'il n'avait pas réussi au Real.
Vous prenez ça vraiment comme un boulard.
De l'humour. Sauf qu'au Real, ils ont gagné sans lui quand même.
Moi je pense ça comme pour un mec qui est lucide.
T'as dit je m'en fous. Troisième information dans le zapping des GG à vous donner. C'est le sélectionneur du Canada qui a mis le feu en Croatie. On s'en fout pas, Christophe Cessieux.
Je m'en fous pas.
Ok.
On s'en fout pas.
Ok, Stephen.
Bon, je m'en fous pas, comme ça je pourrais parler si jamais j'ai...
Je m'en fous pas.
Ok, je vous conte cette histoire. Il y a aujourd'hui ce match entre la Croatie et le Canada, un match qui est très important pour les deux équipes. Les médias croates digèrent très mal les déclarations du sélectionneur canadien John Herdman, qui a assuré que son équipe allait éliminer les vice-champions du monde. Voici ce qu'il a dit. « Je leur ai dit, il parle de ses joueurs, qu'ils sont à leur place et que nous allons nous retrousser les manches et sortir la Croatie. C'est aussi simple que ça. »
On va les pulvériser, il dit même.
Ça n'a pas du tout plu en Croatie. À l'image de la une de l'un des plus grands quotidiens croates, il y a un photomontage en une. Vraiment, allez voir ça sur les réseaux sociaux, c'est assez... hallucinant de voir ça à la une d'un journal. Photomontage donc de John Herdman, le sélectionneur du Canada, complètement nu, avec deux feuilles d'érable aux couleurs du Canada sur le corps. Une très grande pour couvrir la bouche, une toute petite pour couvrir le sexe. Le titre en substance, vous avez une grande bouche, avez-vous 3 points de suspension.
C'est plein d'humour.
Ouais, c'est plein d'humour. Enfin, c'est le genre de choses utilisées par les sélectionneurs, par les joueurs, pour motiver leurs équipes. Il a rien dit de.
C'est un levier, mais bon.
C'est un levier. Bah, alors là, quand tu touches à l'honneur, à l'orgueil croate ou serbe, alors là, évidemment, tu te prends une.
Je pense qu'on est très loin quand même d'une guerre entre le Canada et la Croatie.
Non, mais on ne sait jamais.
Non, mais vous l'avez vu cette une ou pas?
Non, je l'ai pas vu.
Franchement, allez-y, vous allez voir. Il est nu, et avec deux feuilles d'érable, et la toute petite, voilà, pour couvrir les parties.
Ouais, c'est Après, le Canada a une très belle équipe. Hein. Ils perdent 1-0 en ouverture contre la Belgique parce qu'ils sont pas efficaces devant.
Je crois
qu'ils frappent 22 fois. Donc, moi, je serais pas surpris que les Canadiens tapent la Croatie.
De la part du sélectionneur, c'est quand même une erreur.
Pourquoi c'est
une erreur? Parce que tu vas motiver.
Oui, tu motives
encore
plus
les Croates. Ils vont nous pulvériser.
Tu motives tes propres joueurs aussi.
Ah oui, moi, je pense que comme Stephen, tu motives aussi les tiens.
Lovro Majer, le milieu de terrain rennais croate, a déclaré si c'est sa façon de motiver son équipe, pourquoi pas, mais cela va nous motiver aussi.
Bah oui, c'est sûr.
Ils sont tous motivés.
Il a plus de 18 ans, lui.
Fini.
Ok.
Est-ce qu'il y a des cartons rouges dans ça?
Je sais pas comment rebondir à ça, aidez-moi en régie. Ouais. 9h56, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des Grandes Gueules du Sport avec nos GG, évidemment. On retrouvera Jean-Louis Tour en direct de Doha. Pour ce débat, la seconde des GG, qui vous impressionne le plus depuis le début du mondial? Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann? Les GG ne sont pas d'accord, on vous attend au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC, les Grandes Gueules du Sport. RMC, les Grandes Gueules du Sport. Jean-Christophe Drouet.
10h08 en France, midi 08 au Qatar, à Doha, où l'on retournera dans quelques instants. Merci à tous de nous suivre toujours plus nombreux. C'est votre émission Les Grandes Gueules du Sport, exceptionnellement jusqu'à 11h ce week-end, en raison des rencontres qui se disputent à cette heure-là. Japon, Costa Rica, c'est à suivre évidemment sur RMC. Dans l'intégrale Coupe du Monde, on retrouvera Pierre Dorian aux alentours de 10h50 à 10 minutes du coup d'envoi du match. D'ailleurs, dans ce groupe très important, il y a ce match Espagne-Allemagne, c'est à 20h ce soir. Vous ne raterez rien sur RMC. Avec les Grandes Gueules du Sport ce matin, Christophe Cessieux, Stephen Brun, Marc Madiot, Denis Charvet, Jean-Louis Tour qui est de retour dans les Grandes Gueules. Lui, notre GG en direct du Qatar. Rebonjour Jean-Louis.
Rebonjour.
Bien reposé, tout va bien? Une petite collation pour
repartir? Ouais, bien reposé, ouais.
Ouais, ouais, tout va bien.
D'accord.
T'as pris de la hauteur, oui, ça va.
Il prend.
Ah, bah, toujours plus que vous, oui, effectivement.
De la
ah,
oui, oui, bien sûr. Nous allons passer
c'est
la
GG, c'est pas, un génie.
Je peux plus en prendre tellement, j'ai de hauteur.
Oui, t'es beaucoup trop grand pour ça, mon cher Stephen. Nous allons passer la seconde autour des deux leaders de cette équipe de France, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, qui vous impressionne le plus depuis le début du mondial. 10h30, un homme heureux, Pierre Amiche, adore les lives Twitch de Luis Enrique, le sélectionneur de l'Espagne. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les écouter, mais c'est savoureux. Et lui, il adore. Il nous dira pourquoi. Et puis 11h, donc vous retrouverez l'intégrale Coupe du Monde Japon-Costa Rica. C'est le groupe E avec ce choc ce soir, je le disais, à 20h, entre l'Espagne et l'Allemagne. On débute cette nouvelle heure avec cette citation d'Henri Miller qui a dit un jour « Un vrai leader n'a pas besoin de conduire. Il suffit qu'il montre le chemin. »
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Le centre, la tête, le but de la tête. Griezmann,
Griezmann. Oh oui. À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
Mbappé.
Oui.
Le doublé.
Oui.
Qui est le joueur qui est meilleur?
C'est qui le patron?
Le but, le but d'Antoine Griezmann. You're
simply the best. Simply the best. Les deux stars de notre équipe de France ont une nouvelle fois montré le chemin hier soir, le chemin des huitièmes de finale. D'un côté, Kylian Mbappé dans le rôle du sauveur, auteur d'un doublé. Les chiffres sont fous. 31 buts en équipe de France à égalité désormais avec Zinedine Zidane. 7 buts en Coupe du Monde. Deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus derrière Juste Fontaine. Et puis de l'autre, Antoine Griezmann dans un rôle désormais différent. Mi-meneur, mi-récupérateur, devenu le symbole du collectif à la Deschamps. La musique qui fout les jetons. Et cette question: Mbappé, Griezmann, qui vous impressionne le plus depuis le début du mondial? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Qui... Oui ou non?
Oui ou non. Oui, oui, non.
C'est une vanne, on a un peu de second degré, les copains. Mbappé, Griezmann, Christophe Cessieux.
Kylian.
Kylian.
Attends, tu l'appelles Kylian?
Ah, oh bah oui, quand il est bon comme ça, oui.
Denis Charvet.
Griezmann, bien sûr.
Marc Madio.
Mbappé.
Stephen Brun.
Le grand Kiki.
Jean-Louis Tour.
Oui, Mbappé.
Oui, et Mbappé, il répond aux deux questions. Merci beaucoup, Jean-Louis. Ton professionnalisme t'honore. Avant de débattre, je sens que Denis Charvet est seul dans son coin, mais il arrivera assurément à se défendre. On va écouter Didier Deschamps, dithyrambique. C'est un mot beaucoup trop long pour les GG, mais c'est le cas.
Et pour Denis, surtout.
Et pour Denis. Comment, dithyrambique, tu l'écris comment, Denis? J'ai l'impression que tu voulais faire un petit peu d'anglais dans cette émission.
Non, c'est italien, là. Ouais, c'est
du bon. Qu'il prenait à la dictée, je comprends plus rien. Moi.
Oh là là.
Bon, dithyrambique, soit dithyrambique, toi, au moins.
Voilà. Dithyrambique, DIT, plus loin. En tout cas, TIR.
En tout cas, on a Jean-Michel, 8e degré. Ce matin, merci beaucoup Denis. Didier Deschamps sur les deux joueurs.
Kylian, c'est un joueur hors norme. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, il a cette capacité à pouvoir être décisif, à faire des différences, même si les adversaires prennent des dispositions. Écoutez, par rapport à Antoine, il n'y a pas de sacrifice de sa part, quoi, parce que c'est quelqu'un qui est tellement généreux. Il prend du plaisir dans la construction, sa capacité à faire des passes. On le voit beaucoup à la récupération, il adore ça, même tacler. Et puis après, il a cette capacité avec sa patte gauche de faire de très très bonnes choses.
Alors, qui vous impressionne le plus? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Dans le studio RMC, bah c'est difficile pour le camp Griezmann, soutenu par un seul homme, c'est Denis Charvet. Pourquoi Denis?
Ben, d'abord parce que Mbappé a fait du Mbappé, que moi je le vois jouer au parc tout le temps et que vous le voyez à la télé, il a fait du Mbappé, toute la saison il est comme ça, c'est-à-dire qu'il marque pratiquement à tous les matchs, il faudrait ressortir les stats, mais pratiquement à tous les matchs il y a un but de Mbappé. Là il se trouve qu'il y en a deux, mais comment dire, je peux pas être impressionné par un mec qui impressionne déjà depuis toujours quelque part. Donc si tu veux, pour moi il y a rien de surprenant. Il continue sa route, son chemin, et sur son chemin, ben il y a rien qui l'arrête, tout simplement. Donc c'est pour ça que je suis pas impressionné, et que pourquoi je suis pas impressionné par Griezmann, parce que Griezmann hier pour moi il a tout fait, il a mis toute la palette du joueur de football. Il défend, il attaque, il est précis, il est juste. Dans tout ce qu'il a fait, il a été juste. À part le but qui manque. S'il met le but qui manque, je sais pas, mais il faut lui mettre 10 sur 10 hier. Donc, si tu veux, je suis plus impressionné par la justesse et la qualité de ce qu'a fait Griezmann que Mbappé lui-même. Parce que Mbappé, ben, c'est, je le vois faire ça tout le temps.
Ah, il se défend bien, notre ami Denis Charvet. Jean-Louis Tour a
blasé, quoi.
Non, je suis pas. Non, je suis pas du tout d'accord. C'est déjà premier point, c'est pas parce qu'il banalise l'exceptionnel Mbappé que ça ne doit pas nous impressionner. Ce qu'il fait, c'est incroyable. Le nombre de buts en Coupe du Monde, etc. On va pas le rappeler, mais c'est très fort. Et c'est pas parce qu'on le voit toutes les semaines qu'il faut le banaliser en Coupe du Monde.
Si.
En plus de ça, en termes d'attente, il porte toute l'équipe de France sur ses épaules désormais offensivement. Et c'est ça, moi, qui m'impressionne le plus, c'est qu'il est capable dans ces moments-là de répondre présent quand il est attendu et il ne rate pas le rendez-vous.
Ensuite, c'est pas vrai. Toujours.
Pas tout le temps, non. Pas tout le temps. Au PSG, il y a eu des moments où il marquait pas. Il n'a pas tout le temps répondu. Et encore une fois, ce qu'il fait à son âge, et surtout, c'est lui qui fait. Tu dis, Griezmann a une palette complète. Il fait tout. Non, il y a un truc qu'il fait pas, c'est créer le premier déséquilibre, le premier dribble offensivement, parce que ça, c'est le boulot de Dembélé ou de Mbappé. Griezmann, moi, je lui enlève rien à ce qu'il a fait. Je pense qu'il est indispensable à cette équipe de France, mais offensivement, celui qui va faire la différence un moment, c'est Mbappé. Griezmann, c'est excellent ce qu'il fait. Il a un bon pied. On en a besoin dans ce milieu de terrain-là. Il distille des bons ballons, désolé, etc. Mais moi, je suis désolé, Denis, ce qui m'impressionne le plus, c'est celui qui fait la différence offensivement. Mbappé, il peut la faire tout seul. Griezmann, il aura forcément besoin des autres.
Mais c'est le meilleur joueur du monde. C'est son rôle. Je suis désolé.
Denis, que t'ailles au parc depuis 3 ans et tu vois Mbappé mettre des buts, c'est très bien.
Il y a 5 ans déjà, il les mettait.
Là, on parle d'une Coupe du Monde avec un statut totalement différent par rapport à 2018, où Kylian Mbappé a le statut de peut-être meilleur joueur du monde, et qu'il est, depuis le départ de Benzema, tous les regards sont braqués sur Mbappé parce qu'on se dit qu'il n'y a que ce garçon qui peut éventuellement nous faire garder le trophée de champion du monde. Je suis désolé. Peut-être que les gens vont dire, mais t'es complètement fou. Si t'enlèves Griezmann de cette équipe et tu le remplaces par un autre joueur qui doit sûrement exister,
mais lequel, alors, dis-moi. Joueurs, vas-y, dis-moi.
Je pense que tu peux quand même gagner des matchs.
Mais par qui tu le remplaces? Par qui tu
enlèves Mbappé de cette équipe-là? Je suis pas sûr que l'équipe de France soit capable de gagner des matchs et aller plus loin dans cette Coupe du Monde. J'enlève rien.
Il
n'y
a pas de débat, c'est le meilleur joueur du monde.
J'enlève rien à ce que fait Griezmann. Ce que fait Mbappé, 3 buts en 2 matchs à cette Coupe du Monde, il avait toutes les attentes qu'il a. Les chiffres sont vertigineux.
Avec la pression.
Mais tous les grands. Mais tu peux passer à côté.
Mais comment tu peux tout banaliser comme ça, Denis? Tu banalises les victoires en Coupe du Monde, tu banalises le phénomène qui met 7 buts depuis le début de sa carrière.
Mais
du coup, on peut toujours être impressionné. Il faut en profiter, il faut être impressionné à chaque fois qu'on le voit.
Mais Denis, dans ces cas-là, on n'est pas impressionné par Griezmann qui joue à l'Atlético Madrid.
Et Messi, sa carrière, elle n'est pas impressionnante.
Je suis impressionné par Griezmann parce que Griezmann a fait. Aujourd'hui, il a un niveau qui n'était pas le sien avant. Je suis désolé. C'est pour ça que je suis impressionné par la performance de Griezmann.
Non, t'es impressionné par le volume de jeu de Griezmann. C'est différent.
Ben volume, la performance, c'est pareil. Christophe.
Alors, il y a évidemment la Coupe du Monde, mais il y a toute la période qui précède cette Coupe du Monde. Et j'ai l'impression, effectivement, que Mbappé, après ce qui s'est passé en début de saison, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui, les critiques. C'est vrai que son comportement a été assez odieux, comportement d'enfant gâté. On a parlé de sa grosse tête. Mais j'ai l'impression que là, il est rentré en mode mission. Je veux aller décrocher cette Coupe du Monde. Et il est en train de se rattraper aux yeux du monde entier, aux yeux de tous ceux qu'il critiquait depuis des mois. Là, il est redevenu le petit enfant chéri du football français. Et marqué autant de buts. Il ne s'exprime pas devant les médias. Je crois qu'il n'a pas donné une seule conférence de presse depuis qu'il est arrivé. Non,
alors que normalement, l'homme du match, il a été élu 2 fois homme du match,
mais
s'exprime.
Au moins, il ne risque pas de dire de conneries. Comme ça, au moins, il se protège en faisant ça.
Il en dit rarement quand même. Il dit pas de bêtises. Il dit c'est vérité.
Non, mais il dit des choses qui sont reprises fait des débats derrière. Oui, il le sait.
Je pense que là, une fois qu'il aura fait gagner une deuxième Coupe du Monde à l'équipe de France, plus personne ne pourra jamais rien dire.
Comment tu peux dire
qu'il non, a, ce sera a, pas impressionnant parce qu'il en a déjà gagné une il y a 4 ans. Dire, toi, ce que va dire Denis.
Christophe, comment tu peux dire il est en mission depuis tout petit, il est en mission. Quand tu me dis qu'il est en mission, il joue le Real Madrid, Denis, il marque le but à la dernière minute et qu'au Real il marque le premier but. Mais vous déconnez ou quoi? Il est en mission.
Son début de saison, il ne pensait qu'à ça.
C'est là où Jean-Louis, je peux pas être d'accord avec toi. Au PSG, il fait des choses extraordinaires déjà.
Mais donc Denis, toute sa carrière, tu ne seras pas impressionné par Mbappé.
Mais j'adore Mbappé, tu comprends pas.
Mais non, mais donc comme il le fait depuis tout jeune, tu seras jamais impressionné. La carrière de Messi, la carrière de Ronaldo, tu ne seras jamais impressionné parce qu'ils le font depuis tout petit. Ça tient pas, ça.
On parle du Danemark. Laisse-moi un peu rêver d'un quart de finale, d'une finale où il sera indécisif. Et là, je te dirai, ben oui, il y a eu Pelé, il y a Mbappé. Excuse-moi, si après le Danemark, t'es en train de me dire que Mbappé, c'est Pelé, non, je suis désolé.
Si Mbappé est champion NBA avec les Lakers, Jean-Louis, peut-être que Denis sera vraiment impressionné.
Non, moi, j'ai dit Mbappé tout simplement parce qu'il est efficace, il fait tourner le compteur, point final.
Et t'as pas rien d'autre à dire?
Bah non, ça suffit.
Attendez, je vérifie un truc dans le contrat de Marc parce que je l'ai sous les yeux. Attendez, est-ce qu'il est payé au mot? Il est payé. Oui, tu nous dois combien là?
Non, c'est les mots qui. Enfin, il n'y a pas besoin d'aligner les mots. Ce qu'il faut, c'est mettre celui qui convient au moment où il convient. Et pour moi, il est efficace. Donc,
merci. Voilà. Donc, c'est lui qui t'impressionne le plus.
Bah ouais.
Mais quand même, pour soutenir un petit peu le. Pour soutenir ce que nous dit Denis. Denis,
bien sûr, je suis d'accord avec Griezmann. C'est un bon, il a fait un super match, c'est un grand joueur, c'est tout ce
qu'il
a
fait. Il a fait une grande performance.
Avant le début de la Coupe du Monde, on était même à se demander si, Antoine Griezmann avait encore sa place dans cette équipe. Et je trouve que l'intelligence est d'Antoine Griezmann. Et de Didier Deschamps, c'est d'avoir réussi à lui trouver un rôle sur mesure.
Qui n'est pas sa place, je suis désolé.
On ne dit pas le contraire.
Mais attendez, demande pas à Antoine Griezmann d'être gardien de but non plus.
Mais arrêtez,
il a une certaine liberté sur le terrain. Antoine Griezmann, il peut se balader. Il sait faire des choses, Antoine Griezmann. On ne demande pas à un mec de
mais en fait, ça m'énerve. Je suis très énervé.
Je joue récupérateur dans un rôle qui n'est pas le sien. Il récupère en vrai 15 ballons par match.
Et contre toi.
Contre
Jean-Christophe.
Vas-y,
je l'appelle par son prénom complet, c'est dire la gravité de la situation. Si tu veux qu'on parle de Griezmann, faisons un débat sur Griezmann. Qui faut-il féliciter dans la façon dont Griezmann s'est réinventé, lui, Deschamps, etc. Si tu veux qu'on fasse ça, on fait ça. Mais à partir du moment, tu peux pas nous demander de le comparer à Mbappé et quand on dit tous Mbappé, de dire on n'insiste pas sur le nouveau rôle de Griezmann. Tu vois ce que je veux dire? Si dans la question tu nous parles pas de Mbappé, on est tous dithyrambiques, on applaudit et c'est génial ce que fait Griezmann. Mais à partir du moment où il y a Mbappé dans la question, ça emporte tout le débat. Il y aura jamais de comparaison possible entre eux.
C'est pas Rotten ici,
excusez-moi. Les copains, c'est très important ce qui se passe. Il est 10h20, heure française, 10h20 à Paris. Sachez qu'il est midi 20 au Qatar. C'est pas ça qui est très important.
C'est Jean-Louis Arfin.
Il a faim depuis 2h, donc c'est pas ça. Mais c'est très important ce qui vient de se passer, parce que Jean-Louis a dit quelque chose de très juste. La musique qui fout les jetons et cette question. Qui faut-il féliciter pour le remplacement d'Antoine Griezmann? Oui ou non?
Réponds, Jean-Louis.
Stephen Brun.
J'ai tendance à dire non.
Oui.
Ok. Non. Denis Charvet.
Oui, non. Non.
Ok. Marc Madio. Oui et non. Et c'est vrai que c'est un peu les deux.
Je dirais oui, peut-être.
Oui. Ça va, c'est mieux comme ça, les GG,
oui.
L'éditeur.
Oui, évidemment, c'était la bonne réponse.
Oui, c'est.
Jean-Louis, t'es là?
Oui. Donc faut vraiment que je réponde.
Non mais Jean-Louis, sur la prestation et sur le rôle de Griezmann, tu félicites Didier Deschamps ou tu félicites juste le joueur lui-même?
Moi j'ai l'impression que le joueur il a déjà ce rôle là depuis 2 ans. Merci. Donc bravo à Didier Deschamps de l'avoir officialisé, l'avoir mis sur la compo à cet endroit là mais c'est le rôle qu'il avait déjà. Là où je dis bravo à Deschamps, c'est de pas s'être entêté alors qu'il prenait ce rôle là en ajoutant un offensif en plus. Il a acté que Griezmann faisait moins de différence, donc on met Dembélé en plus, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc là-dessus, bravo à Deschamps. Oui.
Moi je pense qu'on a oublié quand même un joueur dans sa performance hier, c'est Dembélé.
La musique qui fout les jetons et cette question. Avons-nous oublié de parler d'Ousmane Dembélé?
Oui.
Christophe Cessieux.
C'est mieux.
Oui, on a oublié. Oui. Marc Madio.
Évidemment.
Oui. Jean-Louis Tour.
Mbappé, bien sûr.
Bien sûr. Stephen Brun.
Oui, peut-être.
Denis Charvet.
Oui.
Oui, on a oublié.
Vas-y,
Denis, maintenant. Pourquoi
Parce que j'aurais jamais vu à ce niveau en équipe de France, tout simplement. Et que ce mec, on sait très bien la qualité de ce joueur. C'est qu'il il fait tout. T'as vu hier les centres pied gauche, pied droit, il sait tout faire. Quoi.
Toi, tu vas quand même pas nous parler de lui alors qu'il joue face au Danemark, seulement le Danemark.
Alors que c'est pas.
Bien sûr, bravo.
J'ai l'impression d'être dans un Rotten Regal. Arrête.
C'est Rotten
Regal. Ça s'enflamme. C'est un vieux.
Mais non,
moi j'étais. Alors, Jean-Louis va me taper dessus, mais bon, moi j'étais impressionné par Dembélé, parce que je ne m'attendais jamais à voir un joueur survoler, parce que je me suis impressionné. Donc Mbappé ne m'a pas impressionné parce qu'il a fait du Mbappé. Tu me dis, il ne faut pas banaliser, tu as raison aussi, je ne banalise pas, mais ben Dembélé, le niveau de performance d'hier, mais s'il continue comme ça, mais ça va être dur de l'arrêter.
Après, il y a un garçon dont on n'a pas parlé, c'est Jules Koundé, à droite. Attends, à un moment donné, c'est.
Il y avait une présentation de Pavard ou Koundé.
La musique,
la musique, il faut les temps. Cette question.
Après, on a dit que j'étais lourd en première heure, mais là, c'est quoi?
Avons-nous oublié de parler de Jules Koundé?
Non. Avons-nous oublié de parler de quelqu'un? Vas-y, fais-le.
Oui ou non, Christophe Cessieux?
Oui.
Oui.
Non.
Non.
J'en ai marre.
Jean-Louis Tour.
N'importe quoi cette émission.
Non.
Stephen Moore.
Je pense qu'on a oublié, oui.
Oui, on a oublié.
Non.
Ouais, on a oublié, mais on va pas le faire. Non. Il est 10h24, on va se retrouver dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport.
Est-ce que Didier Deschamps a trouvé son 11 jusqu'à la fin de la compétition?
Est-ce qu'on a
je
oublié
note
de parler
le débat
de ça
pour tout à l'heure.
Ouais, on verra ça, les copains. T'as bien raison, en tout cas, de travailler ton éditorial, voilà, Jean-Louis, pour parler tout à l'heure, évidemment, dans l'intégrale Coupe du Monde et trouver. Si tu
veux, c'est une bonne conférence de rédaction. Merci à tous.
Et c'est ça qui est génial, c'est que nous on fait un brouillon à l'antenne et comme ça, ça fait profiter les copains tranquillement.
Et bon appétit, Jean-Louis.
Jean-Louis, si tu veux, il y a un homme heureux, Pierre Amiche, qui est avec nous dans quelques instants. Il va parler de Luis Enrique. Si t'as envie de rester avec 10 minutes,
ouais, bah avec plaisir, avec plaisir.
Voilà, tu viens, t'es là, t'es la grande gueule en direct du Qatar. 10h25, on se retrouve dans quelques instants sur RMC. Et si jamais on a oublié de parler de quelque chose, n'hésitez pas à nous le signaler au 32-16. A tout de suite sur RMC.
Les grandes gueules du sport, Jean-Christophe Drouet.
10h29 de retour dans les grandes gueules du sport. Il est midi 29 au Qatar, à Doha. À partir de 11h, l'intégrale Coupe du Monde autour de la rencontre Costa Rica-Japon. C'est le groupe E avec ce match incroyable ce soir qui nous fait déjà frissonner entre l'Allemagne et l'Espagne. C'est à partir de 20h. 4 matchs aujourd'hui, vous n'allez rien manquer sur RMC. On est toujours là avec Christophe Cessieux, Stephen Brun, Marc Madiot, Denis Charvet et Jean-Louis Tour dans une petite dizaine de minutes. Appelez-nous 32-16 si jamais on a oublié un débat ou un joueur ou n'importe quoi. N'hésitez pas, ou une recette peut-être de la tarte aux pommes. Bref, n'hésitez pas à venir nous le dire au 32-16. Bon petit déjeuner à vous, bon petit café. Maintenant, on va s'amuser avec Pierre.
Quoi ? Mais c'est pas possible, mais c'est pas vrai !
RMC.
Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content.
Un homme heureux.
Je suis tellement content, content, content.
Pierre Amiche.
Une fois n'est pas coutume, pardonnez-moi, il n'est pas heureux le dimanche. Salut Pierre.
Bonjour à tous. Je suis heureux.
Salut Pierre.
Il est heureux. Pas en colère. Attends,
tu sais quoi,
On va couper tout ça au montage.
Jean-Louis, il est encore là?
Oui, bien sûr, il est encore là. Faut l'écouter.
Il m'a demandé de rester.
Non, c'est. Alors, regardez là, c'est juste. On n'est pas en direct, rassurez-vous, les copains. Tout de suite, évidemment, le dimanche, un homme heureux.
Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content.
Un homme heureux.
Je suis tellement content, content, content.
Pierre Amiche.
Une fois n'est pas coutume, il est heureux le dimanche. Bonjour Pierre.
Bonjour à tous, elle n'a même pas commencé que la chronique est déjà saccagée. Ce dimanche, je suis un homme heureux. Et ouais, parce qu'hier à 20h, en même temps que Mexique-Argentine, ça démarrait, c'était la 6e session Twitch de Luis Enrique. Alors je vous le dis, je ne vais pas réexpliquer ce que c'est Twitch, donc Christophe, Marc, on s'accroche. Le sélectionneur de l'Espagne nous a régalé une heure de sincérité assez troublante. Par exemple, il passe 15 minutes à expliquer ce que l'Espagne va faire face à l'Allemagne d'un point de vue tactique. Et puis il annonce comme ça qu'il y a de grandes chances qu'il fasse carrément des changements son équipe.
Le 11 titulaire pour l'Allemagne sera-t-il le même que celui face au Costa Rica? Il a toujours été difficile pour moi de reconduire le même 11 titulaire. Je ne crois pas l'avoir fait souvent dans ma carrière, y compris dans mes anciens clubs. Et il y aura donc sûrement quelques changements.
Le reste, eh bien, ça va de sa tactique face à l'Allemagne à son film préféré, en passant par l'air conditionné au Qatar, la couleur du short de l'Espagne ou l'importance dans la vie de la méditation. C'est un peu fouillis, c'est un peu dense, mais c'est surtout hyper marrant. Et c'est plein de petits délires, comme par exemple sur son prétendu compte OnlyFans. La première fois qu'il fait un live, il y a un viewer qui lui demande s'il va aussi faire un compte sur le fameux site pornographique OnlyFans. Alors le coach, il comprend pas la vanne et il dit, attendez, OnlyFans, c'est pour lire des livres en ligne, c'est ça? Donc en fait, il se fait expliquer que pas du tout. Deuxième connexion, le lendemain, il allume le Twitch et il dit, allez, c'est parti, OnlyFans va devoir attendre. Alors tout le monde se marre. On a du mal à imaginer Didier Deschamps lâcher, au contraire, YouPorn va devoir attendre en cours, quoi. C'est un truc qu'on a du mal à imaginer. Autre exemple, vendredi, quand il parle de Ferran Torres, son attaquant, et accessoirement son gendre. Si Ferran Torres marque et le célèbre avec une totote, est-ce que vous le célébrerez? Eh bien, si Ferran Torres marque, on sera très heureux. Mais s'il suce son pouce, il sort immédiatement du terrain, il va en tribune et vous n'êtes pas prêt de le revoir sur un terrain de foot.
En la grada y no vuelve a pisar un estadio o un césped ni vamos.
Il profite de cette heure de liberté plus ou moins totale pour dire ce qu'il pense et régler quelques comptes. Il va crépir les journalistes espagnols. Par exemple, il dit c'est totalement con de demander à un joueur ce qu'il pense de son entraîneur. Bon, c'est pas fou. Et d'ailleurs, il carre totalement les médias ibériques. Marca est obligé de faire un live en réaction à son live pour commenter en direct. J'ai dit qu'on s'accrochait, Christophe. Là, je vois que t'es en train de regarder comment tu peux faire un compte OnlyFans. Je te connais pas. Et surtout, avec cette manière de se présenter au public, aux fans, il ringardise totalement tous les autres modes de communication. Il se confronte sans trembler aux vrais gens et il donne aux uns sans retirer à l'autre. Il continue à faire des conférences où il dit rien. Dans son attitude, dans cette manière d'assumer qui il est, dans cette façon de laisser penser que c'est le meilleur, moi, il me fait un peu penser à Zlatan. Et il fait tout ça sans vraiment s'angoisser des conséquences et des polémiques qui pourraient arriver. Il dit ce qu'il pense et c'est super. Sur la sexualité de ses joueurs, par exemple.
Pour moi, c'est quelque chose de très normal. Bien sûr, si vous faites une orgie la veille d'un match, c'est évident que c'est pas la meilleure des choses. Mais lorsque les joueurs s'entraînent avec leur club, ils dorment chez eux et je me fiche qu'ils aient des relations sexuelles ou non. Moi, quand j'étais joueur et que nous n'étions pas en rassemblement, dès que je le pouvais avec ma femme, nous faisions ce que nous avions à faire.
Alors, j'aime beaucoup ce moment de partage avec les fans et les raisons de cette com, en revanche, sont un peu plus complexes. C'est que Luis Enrique a eu la douleur de perdre sa petite fille de 9 ans des suites d'un cancer il y a quelques mois. Alors depuis, rien n'est grave. Ça n'est que du foot. À la fois merveille de sincérité, contre-feu 2.0, outil de communication totalement assumé. Les lives de Luis Enrique sont une belle opération sympathie. Je sais que c'est que de la com, je le sais, mais je m'en fous. Parce que ça me fait plaisir de voir que ce sont des gens normaux, qu'on peut être sélectionneur sans être totalement intouchable. Et en répondant à des questions débiles ou surprenantes, il en dit plus que 99% des entraîneurs de football. Un sport dont la communication est dominée par la peur, celle de mal dire, de trop dire. On scrute les prises de parole des joueurs comme Mbappé ou Giroud comme si c'était des Nord-Coréens. Résultat, les conférences de presse sont juste terriblement chiantes. Et Luis Enrique est peut-être le plus beau melon d'Espagne, mais j'adore le melon. Et si jamais le sélectionneur de l'équipe de France veut se lancer, et bien sur RMC, on a Twitch aussi.
Merci beaucoup Pierre Amiche pour cette célébration au live Twitch de Luis Enrique, le sélectionneur de l'Espagne. Il va falloir répondre à une question quand même, les GG. Vous avez écouté Pierre Amiche? Parce que pour vous, c'est génial? Quand même un peu dangereux. Génial ou dangereux? Christophe Cessieux.
Je trouve ça génial.
Denis Charvet.
Je suis partagé, dangereux.
Marc Madiot.
Les deux, génial et dangereux, et je vais m'arrêter sur génial. J'ai déjà fait, moi.
Ok, tu vas nous dire pourquoi.
J'ai fait un OnlyFans.
C'était bien.
Bien tenté.
T'as retenu que ça de la chronique.
Je connais bien.
Stephen Brun.
Génial.
Génial. Jean-Louis Tour.
Un peu des deux, mais plus génial que dangereux.
Ok, sur la même ligne que Marc Madiot. Marc, pourquoi génial, mais pourquoi aussi dangereux? Vas-y, tu commences.
Ben, génial parce que j'ai eu l'occasion de tester ce type de communication avec un de mes coureurs, David Gaudu, lors de la présentation d'équipe l'année dernière, et c'était très intéressant et ça permettait surtout aux coureurs de partir sur d'autres chemins que les éléments de langage qu'on leur donne forcément avant de faire une conférence de presse, et j'ai trouvé ça très intéressant. Après, je suis pas d'une génération à l'utiliser tous les jours, mais je dis pourquoi pas.
Tu dis pourquoi pas sur un prochain Tour de France,
ouais,
communiquer via
répondre,
de voir ça,
voire même.
C'est vrai, et répondre aux questions comme ça des internautes.
Le problème, c'est que ça va poser un souci aux journalistes, c'est-à-dire qu'on va tout dire sur ce type de communication, et je vois déjà Christophe à côté de moi qui serait outré qu'on ne lui réserve pas.
Et surtout que la com de la FDJ pendant le Tour de France, elle est quand même très minimaliste.
Réglez vos comptes maintenant, vous avez raison. Marc, j'ai juste pourquoi tu dis qu'il y a des éléments de langage en conférence de presse, ça on le sait très bien qu'il y en a.
Ouais,
mais pourquoi il n'y en aurait pas avec les internautes? Parce que le seul filtre, c'est le journaliste.
Ouais,
au milieu. Donc là, il n'y a plus de filtre. Pourquoi il n'y aurait plus d'éléments de langage, tu vois?
Franchement, j'ai trouvé qu'il y avait une grande liberté d'expression chez Gaudu dans ce type de circonstances qui était totalement à l'opposé de ce qui peut être en conférence de presse normale.
Parce que
je pense que c'est la même chose.
Les internautes qui posent des questions à Luis Enrique, machin, ils n'ont pas cette barrière que le journaliste peut avoir en posant des questions qui sont préformatées sur le sport. Les gamins qui ont 18-20 ans, ils demandent à Luis Enrique des questions qui sortent de l'ordinaire qu'un journaliste n'oserait pas peut-être pas poser. Est-ce qu'un journaliste oserait poser à Luis Enrique si, quand il était joueur, il mettait des soupapes à sa femme avant les, avant les matchs? Je suis pas sûr que...
Tu parles automobile ou...
Automobile. Oui, est-ce d'accord. qu'il avait des relations sexuelles? Je suis pas sûr que des journalistes osent ce genre de questions, entre les cas gamins. Derrière son écran de 18 ans, il écrit sur son clavier, peut-être qu'il a un pseudo, il a même pas son nom, et après, libre au mec de répondre.
Oui, mais
surtout, il y a un défilé de questions, tu en choisis quelques-unes, tu réponds à ce que t'as envie de répondre.
Oui, mais... oui, parce qu'elle est finalement moins dangereuse, c'est moins dangereux c'est de répondre à une question là-dessus, que oui. plutôt que le schéma tactique qui va être employé dans le prochain match, qui peut gêner l'entraîneur et qui peut donner des indications aux entraîneurs adverses.
Oui, mais il répond quand même à ça. C'est des questions sur le jeu, il est assez franc, il répond. Alors, il répond
parce
aussi
que quand il y a un journaliste qui se présente devant lui, tous les entraîneurs ont toujours l'impression que.
Crainte
de se faire avoir, de se faire rouler à Paris.
Je pense.
Jean-Louis Tour et après Denis.
On trouve ça génial parce que c'est Luis Enrique. Et c'est un personnage et c'est un client formidable pour tout type de médias. Ses conférences de presse, elles sont un peu de la même façon. Elles sont très marrantes à Luis Enrique. Il a toujours eu ce franc-parler, mais il a aussi toujours eu cette espèce de défiance avec les journalistes et le courant passait pas forcément, même quand il était joueur. Il y a quelques interviews assez célèbres en Espagne. Moi, là où je trouve ça un peu dangereux, c'est si on enlève le filtre, bah, ça a un côté un peu corporatiste, mais si on enlève les journalistes à chaque fois, ça veut dire qu'il y aura pas de relance, ça veut dire que si l'entraîneur a envie de vous balader, sur Twitch avec sa réponse, bah, il y aura pas le journaliste pour dire, attendez, là, vous pouvez pas nous répondre ça parce que vous avez fait tel compo à tel moment, etc. C'est ça aussi le rôle du journaliste. C'est pas que des questions préformatées qui n'apportent rien.
Je vais aller dans ton sens, Jean-Louis. Parce que c'est génial parce que ça nous fait rire, ça nous fait sourire et que, voilà, on a envie de sourire, mais, Le danger, c'est effectivement que lui, d'abord, je pense que s'il fait ça, c'est que quelque part, il a pas envie de parler aux journalistes, donc il se met un peu à l'écart. Donc déjà, c'est une prise de position qui, moi, me dérange parce que t'as un rôle à jouer. C'est un métier, je suis désolé.
C'est plus un affront, c'est ça?
Oui, c'est un affront pour moi. Et après, la dangerosité, enfin, le danger, c'est qu'à un moment donné, ton personnage prend le dessus. C'est-à-dire que quand tu joues un personnage, on le voit dans en rugby, ça commence à être le cas, dans les coachs qui prennent de l'importance, qui font leur com, qui ont des gens qui s'occupent de leur com, il y en a plein, et tout d'un coup, ben, tu joues un personnage qui est presque hors sujet, et ça, c'est le danger.
On embrasse Fabien Galthié là ou pas?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, je veux dire par là, c'est que à un moment donné, ça te dépasse. Ça, tu peux rentrer dans un rôle qui n'est plus le tien.
Je préfère quand même cette façon de communiquer plutôt qu'une autre manière de communiquer de manière moderne, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, où là, les joueurs ou les entraîneurs livrent leurs états d'âme. Et là, il n'y a pas de confrontation. Oui, ils disent tout à fait ce qu'ils ont envie de dire et évidemment ils disent pas les choses qui peuvent gêner. Là au moins il y a quand même la réponse. Il y avait une question.
Oui, mais la réponse est formatée.
Il y avait déjà eu cette polémique avec Gaël Monfils qui avait fait des live Twitch où il disait posez-moi des questions, je ferai le
journal. Moi je pense que ça c'est très bien si ça n'enlève pas l'exercice d'interview avec un journaliste,
Jean-Louis, ce que fait Luis Enrique, je sais qu'à la Coupe du Monde, et j'ai cru lire un papier hier, il y a quand même beaucoup d'obligations médiatiques, que ça soit pour les équipes, pour les joueurs. Côté, donc c'est-à-dire que ça vous prive pas d'avoir Luis Enrique ou d'avoir d'autres sélectionneurs.
Donc c'est donc bien sûr. Moi je dis juste qu'il faut pas qu'on tombe dans l'extrême inverse et n'oublions pas que c'est pas parce que c'est Luis Enrique, un très bon client. Si Hugo Lloris fait une heure de live Twitch, je ne suis pas convaincu de rendu.
Je ne suis pas sûr que Hugo Lloris te raconte ses positions et qu'il va se faire avant les matchs.
Luis Enrique, qui
est vraiment branché que là-dessus.
Attends,
c'est drôle. Qui est la caricature de qui? Parce qu'à chaque fois, quand je fais une présentation là-dessus, tu me dis bon, pourquoi tu fais
des présentations sur un personnage? Tu rentres dedans.
Ah ouais, mais oui.
Là, on a un compte d'art.
Et pas que dans le personnage.
Il continue.
Il n'y a pas que dans le personnage.
Luis Enrique, qui est en conférence de presse il y a quelques temps, je ne sais pas à quelle occasion. C'était, on lui demandait s'il avait des doutes dans sa vie d'entraîneur. Il disait, pourquoi je douterais? Je suis le meilleur entraîneur sur Terre. Il n'y a pas de meilleur entraîneur que moi dans l'histoire du football mondial. C'est quand même assez génial. Vous imaginez Deschamps répondre ça dans une conférence de presse? Alors il a lancé au troisième.
Mais oui,
c'est chouette.
Marc Madiot.
Moi, je pense qu'il y a deux formes de communication. Il y a une communication officielle qui est formatée et construite à l'avance.
Sous-titre, chiante.
Potentiellement. Et à côté de cela, aujourd'hui, enfin moi je le perçois comme ça, on a une nouvelle forme de communication qui est une communication de l'instantané. C'est-à-dire que les mots qu'on va dire, trois minutes après, ils n'existent plus. Donc on est dans quelque chose d'instantané, de consommable.
Ou et pas de, d'ailleurs, parce que de live. Il y a des mots qui résonnent, je suis pas d'accord avec toi.
Oui, mais...
Ça peut avoir un effet inverse aussi.
Une info efface l'autre. Moi, je le prends comme ça. Et je pense que ce que j'ai vécu à travers Gaudu, par exemple, ou ce qu'il a continué à faire en d'autres circonstances, est dans ce type-là. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, avec un coureur ou un sportif de haut niveau qui fait sa communication de manière traditionnelle et officielle, entre guillemets. Et puis, on a cet autre côté qui est en train de se développer, en train de se mettre en place à travers ces réseaux sociaux plus différents les uns que les autres. Et ça permet aux sportifs de se lâcher sur d'autres sujets et d'avoir une communication autre, qui permet aussi de cerner un peu différemment le personnage que peut-être le
sportif. Ça les rend humains, je trouve.
Ouais,
c'est une question d'équilibre.
Il faut trouver l'équilibre.
Est-ce que ça permet pas aussi de discuter avec un autre public que les lecteurs de base qui lisent Les Canards ou qui écoutent la radio? Un gamin de 16 ans, peut-être que lui, il n'a pas envie de lire une conférence de presse formatée.
Mais c'est exactement ça.
Il a envie de savoir autre chose.
C'est en ça que je trouve que les questions sont différentes
que celles que les journalistes posent.
Oui. Ça ringardise, et ça pourrait ringardiser, pardonnez-moi, les conférences de presse, mais aussi les sélectionneurs eux-mêmes qui au final sont engoncés dans le costume et sont là à nous raconter des trucs comme ils avaient peur de leur ombre.
Non mais parfois c'est un peu insupportable. Les conférences de presse, c'est pas ce que demandent et ce que veulent les journalistes.
C'est ça
avant,
le problème.
Avant, il y avait pas de conférences de presse. Avant, t'allais interviewer les joueurs, les coureurs dans le vestiaire en one to one.
Maintenant, c'est cérémonial.
Maintenant, c'est tellement formaté que c'est devenu très chiant.
C'est très chiant.
C'est pas ce que demande la presse. La presse aimerait avoir accès à ces coureurs, à ces joueurs de manière informelle.
Parce qu'aujourd'hui, il y a des médias comme nous qui, pour la moindre parole, le moindre mot, font des émissions.
Il y a toujours eu ça.
Je suis d'accord avec toi en partie, ils ont un peu peur de leur ombre.
Marc, tu préférais pas quand les mecs venaient dans ton hôtel le soir après les étapes?
Aujourd'hui, c'est vrai que les communications dans le monde du sport sont aussi contrôlées et maîtrisées.
C'était bon enfant.
Et pardon, mais on en a parlé à 9h30, si vous voulez aller nous écouter en podcast, Aurélien Tchouaméni, il dit ce qu'il pense sur Benzema. Quelqu'un l'a crépi ici derrière? Non, mais justement, c'était bien ça. Voilà, le mec a dit ce qu'il avait à dire et il s'est servi de la presse pour ça et j'ai trouvé ça génial.
À l'époque, il y avait aussi cette connivence en disant si t'étais pote de machin, tu pouvais aller dans le vestiaire et discuter avec lui.
C'est vrai.
Et puis à l'époque, si t'allais dans le vestiaire de Lance Armstrong et tu discutais, il fallait être infirmier aussi.
C'est tout petit.
C'est vrai que le live Twitch avec la perfusion, c'est pas terrible. Merci Jean-Louis d'avoir été avec nous. On te retrouve à quelle heure pour l'intégrale Coupe du Monde?
À 17h heure française.
Ah ouais,
avec Croatie, Canada.
Ah, chill aujourd'hui. Tu vas faire un petit tour, Jean-Louis?
Oui, excellent.
Ah oui, parce qu'il s'appelle Jean-Louis Tour. Merci Jean-Louis. On te retrouve évidemment tous les jours dans l'intégrale Coupe du Monde et on te retrouvera la semaine prochaine dans les grandes gueules du sport. Et on embrasse les copains. Et si vous nous regardez sur Twitch, car RMC, Pierre l'a dit, a un Twitch. Et en ce moment, les grandes gueules du sport sont diffusées.
On est Twitch, on est Twitch.
Christophe, il croit que c'est un bout de pain avec du fromage à Twitch.
T'as entendu cette phrase? On est Twitch.
On est Twitch.
En 1950, Jean-Claude Killy. 10h45, le 32-16 pour parler des Bleus. Avec vous, Cyril nous attend au 32-16. À tout de suite.
RMC.
Les grandes gueules du sport. Jean-Christophe Drouet.
10h48 en France, 12h48 au Qatar. Vous le savez, RMC Radio. Officiel de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar avec une très belle journée encore et dans 12 minutes le coup d'envoi de Japon-Croatie, l'intégrale Coupe du Monde autour de Pierre Dorian que l'on retrouvera dans quelques instants. Tout de suite, c'est à vous de jouer les auditeurs. Cyril nous appelle au 32-16. Salut Cyril.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous en direct sur RMC, les grandes gueules du sport. Cyril, tu voulais nous dire quoi ce matin? J'imagine que tu as entendu nos débats enflammés.
Oui, en fait, je voulais revenir un peu sur le match de l'équipe de France, enfin sur les deux matchs, le début de compétition, et ça rejoint un peu les deux débats que vous avez fait sur Mbappé et sur est-ce que la France, est-ce que gagner les deux premiers matchs, est-ce que les filles après deux matchs, est-ce que c'est un événement? En fait, moi je trouve que c'est un événement, parce que déjà, sur les 5 dernières Coupes du Monde, il n'y a qu'une équipe championne du monde en titre qui s'est qualifiée pour les huitièmes de finale, donc quelque part c'est quand même un événement qu'une équipe championne du monde se qualifie. Et la deuxième chose, c'est que je trouve que ce qui me plaît dans cette équipe de France-là, c'est le jeu. C'est parce qu'en 2018, on était tous contents d'être champion du monde, on est tous descendus dans la rue, bien sûr. Mais le jeu était assez chiant, pour être tout à fait honnête. C'était un peu un jeu à la FIFA, c'est-à-dire qu'on défendait très bien et on balançait devant pour Mbappé qui allait à 2000 à l'heure. Mais là, je trouve qu'il y a du jeu, il y a de la prise d'initiative, il y a des passes, c'est quelque chose, quoi. Et c'est ça qui est séduisant. Et c'est pour ça que, pour moi, ça me plaît. Même si on sort en quart ou en demi, si on produit ce jeu-là, ce sera décevant, mais on aura vécu quelque chose et il y aura eu des émotions. Et pour moi, ça, ça a beaucoup à... c'est grâce à Griezmann qu'on a ce jeu-là, en fait, pour moi. Parce que c'est lui qui fait les passes, c'est lui qui fait le décalage. Sur le deuxième but de Mbappé, le plus dur, c'est la passe, c'est pas forcément le but. Donc c'est pour ça que, peut-être pour rejoindre le débat sur Mbappé, pour moi, Griezmann est aussi important que Mbappé, parce qu'il défend, il fait du jeu. Mbappé dans la percussion, dans la finition, mais pour moi les deux sont aussi importants l'un que l'autre.
Évidemment important, mais tu rejoins un peu plus Denis quand on vous demandait, évidemment, deux joueurs magnifiques de notre équipe de France, mais qui vous impressionne le plus depuis le début du mondial, tu répondais comme Denis Charvet, plutôt merci, Griezmann dans ce nouveau rôle.
Oui, parce que le foot c'est pas uniquement FIFA, c'est pas le jeu vidéo, c'est pas on défend, on balance devant, on fait un dribble et on marque. C'est très important, hein. Je dis pas qu'Mbappé n'est pas important, il est indispensable, mais Griezmann, c'est un peu Federer-Nadal, quoi. Federer, c'était un peu l'artiste. Nadal, c'était le joueur physique. Mais Griezmann, lui, c'était un peu un artiste au niveau de la passe, pas forcément au niveau des dribbles, de la percussion, mais au niveau de la passe, du décalage. Il gardait jamais le ballon plus de 2 touches. Il a fait des passes, il a fait des magnifiques centres, il a failli marquer un but.
Mais il a jamais été aussi fort. Moi, j'ai jamais vu aussi fort sous le maillot bleu.
Je suis tout à fait d'accord.
Ah, non, Denis, là, encore une fois, c'est l'instant présent, là. Parce
t'oublies ce qui s'est passé.
J'oublie pas dans son rôle hier de récupérateur.
C'est quand même lui qui porte les bleus en 2018. Et en 2016.
Ah ouais, non, là,
2016 allait un petit peu moins, parce qu'il y a aussi Dimitri Payet.
On peut effacer les rushs pour le podcast.
Oui, mais sauf qu'en 2018, il y avait quand même Kanté à côté de lui. Dans un rôle qui était le sien hier, donc je suis pas d'accord avec vous. Dans son rôle de récupérateur hier, il a été monstrueux.
De toute façon, c'est pas grave si on n'est pas d'accord, parce que c'est l'essence même de cette émission. Merci Christophe Cessieux, Marc Madio, Stephen Brun, Denis Charvet.
Déjà.
Quelle surprise.
C'est quoi Japon-Costa Rica.
Japon-Costa Rica. L'intégrale Coupe du Monde. Tu connais Pierre Dorian?
Pierrot, c'est mon gars sûr. Basket time, Pierrot. C'est lui là.
Il est là, mon Pierre Dorian. Salut Pierre.
Salut les gars. Salut Pierrot. Encore mieux que Basket Time, on va faire une intégrale Coupe du Monde sur Japon-Costa Rica avec une dream team de rêve.
Magnifique.
Pascal Olmeta, Lionel Charbonnier et Roland Courbis. C'est très simple, on va parler de l'équipe de France. Les Bleus vous ont-ils convaincu? Mbappé, mention bien ou mention très bien? Et puis quel changement face à la Tunisie? On reviendra aussi bien sûr sur l'Argentine qui est soulagée. Le Brésil, les dernières infos de Neymar, parce qu'ils sont nombreux dans la secte Neymar avec Denis Charvet. Donc tout ça, c'est en direct avec la Dream Team et tous les envoyés spéciaux d'RMC jusqu'à 1h du matin, comme tous les jours, pendant la Coupe du Monde.